à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1 consacrée au plus prestigieux des Grands Prix de la saison, le Grand Prix de Monaco. Comme d'habitude, pour m'accompagner, bonsoir Dino.
Bonsoir Shiji.
Et ce soir...
Oh mais dis donc Shiji, oui. Entends-tu ? Nous ne sommes pas seuls.
Non, nous ne sommes pas seuls.
Tu veux comment je t'ai eu cette semaine ? Cette semaine tu m'as pas eu.
Voilà.
Mais moi cette semaine je t'ai eu.
Eh bien je te dirais Dino que cette semaine, pour un Grand Prix de prestige, il nous fallait un guest de prestige.
Ah oui, c'est-à-dire qu'il faut être honnête, enfin, on aurait été un peu méchant envers nos anciens guests, mais il y a des guests normaux et il y a des super guests. Et les super guests, voilà, c'est... Voilà. Après, au-dessus de super guests, c'est poltergeist, mais ça, on n'a jamais vu.
Non.
Mais super guest, c'est déjà pas mal, quoi. On tape dans le...
Alors déjà, on peut dire, ça, ce n'est pas un pilote, ce n'est pas quelqu'un qui travaille dans la F1, hein, je préfère calmer tout le monde. Tout de suite.
Non. Pourtant, on a essayé, enfin, dire que, enfin, Romain Grosjean insiste beaucoup pour venir, mais on lui dit non, parce qu'à chaque fois, tu vas rater le début de l'émission et tout, et on, voilà, on a besoin de quelqu'un qui soit là toute l'émission, tu vois.
Mais malgré tout, vous allez être très content. Oui, vous allez être très content. Car ce soir, c'est une fille!
Ouais!
Bonsoir, Bien,
on n'a pas reçu de prom, Shinji.
Bonsoir non, à tous.
C'est vrai.
Ça, on commence dans la joie et la bonne humeur, à ce que je vois.
Mais quand même, notons que c'est un SAV d'autant plus historique. Bon, t'es la deuxième demoiselle que nous recevons dans cette émission après Maëlle, que nous saluons. Hein. Rassure-toi, Maëlle, voilà, c'est pas parce qu'on a une autre auditrice qu'on t'aime plus, on t'aime toujours, Maëlle. Voilà, c'est...
Non, non,
mais voilà.
Je n'oserais pas prétendre à te piquer ta place.
Voilà. Voilà, maintenant il y a Alexane, et il y en aura peut-être d'autres un jour, qui
oui,
sait.
Qui sait.
Ce serait cool.
Parce que maintenant on est sans limite, maintenant. Maintenant on a reçu des femmes, bientôt c'est des extraterrestres qu'on va recevoir.
Attention.
Bon écoute, on a reçu des femmes, c'est à peu près pareil, hein.
Oh non.
Alors quand même, hein, émission doublement historique, puisque en plus je crois, Alexane, que tu nous appelles, enfin...
De très loin.
Tu es avec nous en direct d'un pays voisin, puisque tu n'es pas en France actuellement.
Non.
Donc on va encore voyager avec le SAV, puisque nous allons aller en...
En Allemagne.
Ah oh, merde, dommage. Oh. On avait dit Italie avant, hein.
Non.
Ça aurait pu être...
Pour l'Italie, tu te démerdes, Dino. Ça, c'est ton truc.
D'ailleurs, je viens de me rendre compte que, heureusement, que Sébastien Vettel n'a pas gagné. J'avais promis que s'il gagnait, je chanterais l'hymne allemand. Et sincèrement, je crois que j'aurais eu l'air con.
Merci, Sébastien.
Mais c'est donc, très bien voilà. Quand tu chantes l'hymne italien.
Oui, c'est vrai.
Non, lui dis pas des trucs comme ça.
Non,
il a pas gagné. Il a pas gagné.
Oui, il a fait un podium, c'est bon. Pour Ferrari, c'est comme une victoire, un podium.
Bon, c'est plus vraiment une trapanelle, leur voiture, remarque.
Ah, oui, voilà, c'est... Voilà, c'est...
Désolé, je vous ai piqué cette expression, je la trouvais magnifique.
Ah, trapanelle,
c'est un mot. Alors, comme d'habitude, je vais vous poser la question éternelle. Qu'avez-vous posté de ce Grand Prix?
Ben, avis mitigé, on va dire. Dino, tu voulais dire quelque chose?
J'ai bien aimé.
Oui, il a une position à défendre, Dino.
Oui. Non, mais voilà, moi, sincèrement, je suis fier parce que j'ai eu mon premier tweet clash sur Twitter. Dans ma vie, il y avait deux trucs. C'était voir Monza et avoir un tweet clash. J'ai fait les deux, je suis content.
Je veux dire, ce qui est étonnant, c'est que tu l'aies eu que maintenant. Je veux dire, quand.
Oui, c'est vrai. Mais ce que j'ai bien aimé, voilà, c'est un Grand Prix Monaco classique, voilà.
Ça reste Monaco. Bah,
voilà,
c'est pas, Monaco. On a toujours dit, je crois que c'est Alonso qui a eu des déclarations très justes. Il a dit en termes de pilotage, etc. C'est pas ce qui est le plus excitant, mais c'est tout ce qu'il y a autour qui donne une atmosphère. Et là, on l'a eu. Il n'y a pas eu de dépassement. Enfin, très peu. Et
hein.
Par moi, il y en aurait eu un.
Voilà. Non. Bah, c'est-à-dire que si on compte pas forcément le déplacement de d'Hülkenberg, c'est ça, sur Kimi Räikkönen.
Merci Sergio.
Non, ne tapez pas sur Pérez, pitié.
Ah, une fan de Pérez.
Non, Timo Glock avant tout.
Ah oui, c'est vrai.
Ah oui, c'est elle. Parce qu'il faut le dire aussi, c'est elle.
Oui, c'est vrai.
C'est la fan.
Oui. Timo. Hey.
Timo, je t'aime. En plus, je suis dans son pays. C'est trop mignon.
Non mais sincèrement, c'est moi ce qui m'intéresse, c'est toi qui es en Allemagne en ce moment, quand tu dis aux gens que tu es fan de Formule 1 et que tu es fan de Timo Glock, est-ce que les gens rigolent?
Ce qui est drôle, c'est que déjà, quand je leur dis Timo Glock, ça leur dit quelque chose en général.
C'est étonnant.
Ah, oui.
Voilà, c'est quand même donc, autre
quand
chose.
Quand on dit Charles de Pique, c'est bizarre.
Oui, bah, bon, en France, quand on dit Charles de Pique, il suffit de regarder le journal de TF1 tous les jours, il y est bien passé au moins une fois. Mais
oui.
Bon, tous les Français ne regardent pas le journal de TF1 tous les jours. Genre ça, c'est un fait. Mais bref.
Bah, c'est un risque, hein. Enfin, il y a un risque pour la santé humaine, enfin, il faut être honnête, hein. Si vous étiez, sincèrement, si vous regardez le JT de téléphone, faut
pas le dire.
Arrêtez, quoi, c'est, Il y a l'amiante et le JT de TF1. Voilà, c'est... Les spectateurs de Secret Story aujourd'hui porteront plainte dans 30 ans parce qu'ils ont le cerveau ramolli.
Ouais. Après, Fukushima TF1, c'est tout un dossier. Donc, pour revenir sur Team O'Glock, bah, c'est déjà plus sympathique de voir qu'il y a une petite étincelle de plus qui brille dans les yeux des gens. Team O'Glock, ah, mais oui, mais c'est pas un Allemand, lui. Si, si. Et la Formule 1, Marius, c'est Schumacher, Vettel. Oui. Donc, les gens ont un peu plus de références, quand même, je trouve. Je sais pas, il y a
Oui.
peut-être une plus grande culture, sûrement, parce qu'ils ont cinq
Il y a
pilotes,
plus d'Allemands.
Schumacher, Vettel. Mais, ouais, c'est quand même un peu différent de.
Mais c'est vrai qu'il y avait eu un sondage dernièrement sur le remplaçant potentiel de Michael Schumacher, où je crois que Timo Glock avait fait 40 ou 50% et Hamilton avait fait moins de 10% ou un truc dans le genre.
J'aime bien voir ça, même si je sais que bon, c'est le jugement biaisé parce que c'est un Allemand. Mais voilà, moi ça me contente. Voilà, faut savoir se contenter de petites choses des fois. Surtout quand ton pilote préféré est allé se planter dans ton écurie fond de grille et que bah voilà quoi.
Jusqu'en 2014.
Oui.
C'est le mec qui enfonce un peu le couteau dans la plaie.
Avant, casse-toi, Timo, s'il te plaît. On remarque que je préfère peut-être qu'il soit chez Maroussa que qu'il ne soit plus du tout. Voilà. Faut...
C'est pas con,
Faut
c'est bien.
faire
C'est, en même
remarquer.
temps, être chez Marussia, c'est un peu ne pas être en F1.
Bon, voilà, c'est un non-lieu.
Et donc, au début d'émission, Alexon, qu'est-ce qu'il y a?
L'éphéméride inutile.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'elle fait mérite.
Donc rappelons-nous, et c'est facile à se rappeler puisque c'était hier, car il faut l'avouer, on enregistre lundi soir, nous étions le 27 mai. Donc, comme d'habitude, hein, je vous donne un chiffre en rapport avec un fait qui a eu lieu, hein, donc ce 27 mai. Et ce chiffre, c'est le chiffre 29.
Alors, 29, est-ce qu'il y a une unité particulière, centimètres, litres, mètres?
Oui, il y a quelque chose à... Ouais, il y a une unité.
Ou bien alors c'est des personnes,
Ce n'est pas des personnes.
quelque chose de matériel,
Non.
Attention, dis-nous des idées.
Ah non, mais moi, honneur aux filles.
Non.
Moi, je te laisse gagner, Alexandre.
C'est très poli de dire démerde-toi.
Je sais pas. J'étais en train de chercher mon proverbe. Pour ça.
Dernière question, est-ce que ça a un rapport avec la F1?
Non.
Non, bien sûr.
Je préciserai même que ce n'est pas tant le sens du chiffre qui est important, mais à quoi ça se rapporte. Mais
Est-ce que ces 29 choses sont vivantes?
non.
Elles sont inertes, donc.
Oui, elles sont inertes.
Bien.
Elles ne peuvent pas être mues par un moteur ou ce genre de choses.
Non, je pense pas.
C'est pas bête, ça.
Alors la manière dont tu rigoles, la manière dont tu rigoles, c'est un indice.
Oui.
Alexandre, il y a un indice. Le fait qu'il se foute un peu de ma gueule sur cette réponse, c'est qu'il y a quelque chose derrière. C'est un truc où si on mettait un moteur dedans, ça serait rigolo.
Ça serait pas possible en fait, je pense.
Parce que c'est trop petit, il n'y a pas la place de mettre un moteur. Bon,
Non,
peut-être
parce que
que
conceptuellement, c'est pas possible.
bon.
Est-ce que ce sont des objets du quotidien?
Non.
Ça a un rapport avec un sport?
Non.
Voilà.
Ce ne sont pas des objets du quotidien. Ce sont des objets de la semaine?
Non, mais ce sont même pas des objets.
Oh.
Bah, c'est toi qui as dit que c'était des objets, il faut que c'était
Ah
pas
non?
inerte.
Non, si je dis c'est inerte.
Si, si.
C'est des aliments?
Non.
Merde.
Enfin, les 29, c'est pas des aliments.
Mais ça se réfère à des aliments.
Ça se réfère à des aliments.
Ah, une petite piste.
Attends, c'est 29 choses, mais c'est pas physique. C'est une unité, mais pas physique.
Oui.
Est-ce que c'est 29 idées?
Non.
Les 29 pires idées de Bernie Ecclestone. Ah non,
Non.
ça n'a pas rapport avec F1.
C'est 29, c'est dans le sens unité. Voilà, je vous aide un peu à avancer. Tout
Ouais.
simple, voilà.
Donc on a dit que ça avait un rapport avec la nourriture.
Oui, le chiffre en lui-même n'a pas du tout de rapport, mais c'est le thème global qui a un rapport avec ce 29.
Quelque chose, une nourriture particulière, un légume, un fruit, n'importe quoi.
Ça n'est pas... Ça serait plutôt classé dans les fruits, mais je ne suis pas sûr.
Attention.
Je comprends plus du tout ce chiffre. Mais c'est la...
Puis quelque chose en rapport avec un 27 mai qui parle de nourriture. Journée mondiale d'un fruit, on aura tout vu.
Ça serait ça? Ça serait la journée mondiale d'un fruit ou un truc dans le genre?
Non, alors attendez. Je vais vous dire précisément.
Mais c'est une journée mondiale.
Non, c'est pas une journée mondiale.
Zut.
Alors, je confirme, c'est un fruit, mais je ne pense pas que vous pensiez que ça soit un fruit à l'origine.
Ah non,
L'avocat?
ça sert à
Non.
rien qu'on essaie de chercher de quel fruit il s'agit.
Ah, si vous savez qu'à l'origine c'est un fruit, vous êtes
Oui.
balèze.
C'est un fruit européen.
Ouais, un fruit qu'on a l'habitude
Non,
d'utiliser dans nos cuisines.
non.
C'est donc un fruit exotique.
Wow.
Plus exactement, c'est un dérivé du fruit.
C'est un OGM.
Ah ouais, c'est un dérivé du fruit, maintenant. Non, c'est mauvaise piste, là, on ne trouvera rien. Faut qu'on revienne sur le 29. Le
Ah,
29, c'est...
honnêtement, vous avanceriez plus si vous alliez sur l'aliment, je pense. Mais partez plus sur la notion d'aliment que de fruits.
C'est un aliment à base de fruits, en fait.
Oui.
Ça parle d'une recette qui contiendrait ce fruit ou ce serait l'ingrédient principal?
Le fruit est l'ingrédient principal. Je vais vous dire, c'est un aliment qu'on a tous mangé.
Wow. C'est un aliment qui est présent dans plein de choses qu'on sache vraiment
Oui,
qu'il y a.
dans plein de formes différentes d'ailleurs.
Est-ce que c'est un truc qui est importé, enfin qui est... Ah ben non, je suis con. Enfin, c'est du chocolat?
C'est du chocolat.
Du cacao. C'est ça que
Voilà,
je pensais.
c'est.
Alors le
Et
chocolat.
donc le
Alors c'est
cacao,
quelque
c'est un
chose.
fruit. Voilà, c'est pour ça, je
Ça,
n'étais
c'est
pas sûr. C'est
effectivement.
un fruit.
Donc c'est quelque chose qui a été fait en chocolat.
C'est quelque chose avec rapport avec le chocolat. Pourquoi
27
29?
mai. Ah ben maintenant, faut qu'on revienne au 29. Merde.
Voilà. Vous savez que
Non.
ça concerne le chocolat. C'est déjà pas mal, hein. Franchement, vous avez bien avancé.
C'est des
Ça faisait
kilos?
longtemps qu'on n'avait pas eu un chiffre aussi petit, il me semble.
C'est vrai.
C'est 29 kilos de chocolat?
Non.
Donc c'est 29 quelque chose en chocolat.
Pas du tout.
Oh.
C'est 29 sortes de chocolat?
Non.
29 manières de dire le mot chocolat?
Non. C'est même un événement très français. Complètement. Enfin, oui, français.
Et qui se déroule tous les 27 mai.
Ah non, c'est arrivé une seule fois.
Ah ouais. Arrivé une seule fois dans le siècle dernier.
Pas le siècle dernier.
Bon, le siècle
Le
d'avant.
siècle d'avant, le 19e?
Pas celui-là.
Voilà.
Le 18e?
Pas celui-là.
Peut-être.
Le 17?
Oui. Ah.
C'est un rapport avec un roi?
Ça a un rapport avec un roi.
Alors, qu'est-ce qu'il y avait à cette époque? Il y a eu Louis XIV.
Louis XIV,
C'est Louis
Louis
XIV.
XIII, Louis
Louis
XIV.
XIV. Du genre, à son.
C'est 29 recettes à base de chocolat dans la cuisine de Vatel.
Ah non, ça serait sympa, mais non.
Hein?
Qui ont été servis à son couronnement, on a quelque chose du genre.
Ce n'est pas... D'une certaine façon, c'est pas lié à son couronnement, mais c'est lié à un événement marquant de son règne.
C'est l'interdiction du chocolat, non?
C'est le contraire!
L'autorisation du chocolat.
Autorisation
L'autorisation à quoi?
d'en
De
consommer
fabriquer.
régulièrement.
Bah, on peut dire que c'est bon, hein, puisque, alors, c'est l'autorisation, et en fait, pourquoi 29 d'après vous?
Ah.
29, parce que c'est la 29e loi qu'a fait Louis XIV.
Non, je vous dis que c'est une unité de temps.
29e semaine? 29, même 29 ans?
Oui.
Ça faisait 29 ans que c'était interdit.
Non,
Après
c'est en fait c'est en
37.
sens inverse.
Ça va être autorisé pendant 29 ans.
Exactement. En mai 1659, en fait, Louis XIV a accordé à David Chailloux, premier valet de chambre du comte de Soissons, le privilège exclusif de fabriquer, de vendre et de dépiter le chocolat dans tout le royaume de France pour 29 ans. Et en fait, il a ouvert sa première boutique à Paris 2 ans plus tard, où il a pu proposer du chocolat à toute la bourgeoisie parisienne. Parce que jusqu'alors, en fait, il y avait que l'aristocratie qui pouvait consommer du chocolat.
Ouais.
D'accord. En fait, il a accordé un monopole sur
Sur la vente de chocolat.
voilà.
Il a un peu ban la banalisé en fait.
Exactement. Et en fait, là où c'est lié à un
Merci Louis XIV.
là où c'est lié à un événement de sa vie, c'est qu'en fait, le chocolat, il a été importé en fait avec son mariage. C'est-à-dire que ce fameux David Chailloux, lorsque Louis XIV est allé chercher sa future femme, hein, eh bien en fait, David Chailloux, il s'est un
Ils sont ennuyés, c'était dimanche. J'ai dit, tiens, je vais aller à Carrefour, je vais essayer de voir si je trouve une
Je vais
femme.
chercher Marie-Thérèse d'Autriche et en fait, donc il a pris David Chailloux a pris contact avec Marie-Thérèse d'Autriche, lui a présenté le chocolat, elle a adoré ça et donc non seulement il a obtenu ce poste de premier valet de chambre et donc il a eu cette patente royale pour avoir l'exclusivité de vente du chocolat pendant 29 ans. Il faut savoir aussi que avec le mariage de Marie-Thérèse, c'est aussi la première fois qu'on a vu des oranges en France.
Ah ouais.
Wow. Orange et chocolat en plus, ça va être trop
Ça va
bien.
super bien. Hein.
Ça c'est
Et
clair.
donc, apparemment, Louis XIV, il aimait pas trop le chocolat. Hein. Il aurait dit, cet aliment
Bon.
trompe la faim, mais ne remplit pas l'estomac.
Il n'a pas tort.
Dans un certain sens, c'est vrai.
Quant à la marquise de Sévigné, elle a noté « Il vous flatte pour un temps, et puis il vous allume tout d'un coup une fièvre continue. » C'est beau.
Je crois que le jour de Pâques, on peut en témoigner.
Oui. Voilà, c'était le début de la grande histoire du chocolat en France.
Waouh, merci Shinji.
Merci Shinji.
C'était un beau chiffre inutile. Inutile.
Non, c'est bien, c'était un bel
éphéméride.
C'était un truc un peu plus vieux que d'habitude. J'ai dit, ah, du chocolat, ça va être cool.
On vient juste de prendre 15 kilos chacun, mais c'est pas grave.
Et sinon, en F1, parce que bien sûr, il y a eu des grands prix un 27 mai. Et nous allons remonter à une date un peu plus récente que 1659, puisque oui, nous allons remonter.
Ah, le Grand Prix de Formule 1 de 1659. Ah là là, je me rappelle.
Nous allons remonter au 27 mai 2001. Et est-ce que vous vous rappelez de Enrique Antonio Langue de Silverio et Bernoldi?
Bah, Bernoldi.
Voilà, le fameux fait de gloire de Enrique Bernoldi. Ce fameux Grand Prix de Monaco.
Ah oui, où il a retenu David Coulthard.
Voilà, David Coulthard devait partir en tête. Pas de bol, au tour de formation, il a des pépins électriques, il doit partir enfin, ce qui est déjà une catastrophe à Monaco, hein, on est tous d'accord.
Oui.
Donc il part, il arrive à monter quelques places, et au sixième tour, il...
Arrive l'improbable.
L'improbable, arrive une arrose.
Bernoldi.
Je dirais même précisément, au huitième, oui, qui était orange, aux couleurs de orange.
Oh, hein. Magnifique.
Voilà. Et il faut savoir que Coulthard a attendu derrière Bernoldi jusqu'au 41e tour.
Oh non.
Il est resté coincé derrière Bernoldi pendant plus de 30 tours à Monaco.
On a trouvé pire que Karti Kéyan.
Ah oui.
Non, ce week-end c'était Kovalainen qui a bien pu
c'est vrai.
Alors, il y a deux points de vue qui s'opposent sur cette question. Certains disent que Bernoulli, il aurait dû laisser passer Coulthard parce que une McLaren c'était quand même vachement plus rapide qu'une Arrose.
Même si on était à Monaco.
Voilà. Et l'autre camp dit, mais oui, mais Bernoldi et Coulthard, ils étaient dans le même tour. Donc, à partir du moment où Coulthard est l'eau, il n'y a pas de raison qu'il le laisse passer.
Il n'y a pas de drapeau bleu à ce moment-là. Donc, c'est dans son droit de se défendre. Bon, après, il ne faut pas qu'il le fasse à outrance. Mais bon, j'ai pas été témoin de la scène. Donc, bon,
c'est sûr que tu prends un tour derrière une arrose, quand tu as une McLaren, ça fait mal.
On va être un peu frustré. Hein.
Ouais. Et d'ailleurs, Bernoulli n'a eu aucune sanction, aucune sorte. Mmh. Hein, parce qu'il était parfaitement... Non, mais... On les connaît, on sait jamais.
C'était pas aussi méchant à l'époque.
Ce qui, au final, n'aura pas empêché Coulthard de finir cinquième. Puisque, avec un...
Enfin, quand même, il faut bien se bouffer les couilles, quand même. J'ai passé 35 tours derrière Bernoldi, je finis cinquième.
C'est à noter, c'est vraiment le fait de gloire de Bernoldi. Hein. Il a pas fait grand-chose d'autre. Le pire, c'est que c'est sa meilleure course. Je veux dire, tenir 35 tours devant une McLaren, chapeau, quand même. Alors depuis, on n'en entend plus parler. À un moment, il était en IndyCar, mais là encore, c'est pareil. Il a pas non plus fait long feu. Et voilà, c'était tout pour cet éphéméride.
Merci, Shinji.
C'était un bel éphéméride, Shinji.
Sur le chocolat et les tampons.
Comme d'habitude.
Elle est bizarre, cette phrase.
Oui, oui.
Je trouve, Shinji, que ça manque de délicatesse, tu vois.
Oh, c'est vous qui voyez des trucs pervers partout. Alors...
Je vais faire
avec le chocolat et les chicanes mobiles. Voilà, vous préférez?
Voilà.
C'est déjà mieux.
Là, tu te rends compte plein de gens naïfs qui n'avaient pas compris le truc et qui viennent se dire, ah, Dino, c'est le quart d'heure d'Alexane qui arrive maintenant.
Oui, puisque c'est l'heure de gloire de l'invité.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'heure de gloire de l'invité.
Alors Alexane, ce soir tu es notre invité et nous sommes heureux de t'accueillir, mais tu ne dérogeras pas à la règle qui consiste à te dévoiler devant nous, dévoiler ton esprit, enfin ce que tu penses.
Oui, ce que je pense.
Et comme tu le sais sans doute, ça commence par le pour, pas pour. Nous allons aborder 10 thèmes et nous allons te demander si tu es pour, pas pour. Alors, es-tu prête ?
On va dire oui.
Alors, attention, Alexane, pour ou pas pour la participation de Kimi Räikkönen au rallye des 1000 lacs de Finlande ?
Pour.
Pour ou pas pour la saison à plus de 20 courses?
Pas pour.
Pour ou pas pour le déménagement à la Caja Magica?
Oula.
Magica, je sais pas. La Caja Magica.
On va dire...
Le déménagement de HRT.
Ah,
comme souvent, les HRT, on les voit pas, c'est pour ça.
Bah, pas pour.
Pas pour. Pour ou pas pour Le Hungaroring.
Pour
j'ai dit, tu l'as dans l'os.
Moi, je dis rien, moi.
Non, mais monsieur, je critique le Hungaroring. On va en reparler au
Hungaroring. Non, j'ai mes raisons, c'est pas forcément...
Je vais faire les comptes, j'ai dit. C'est la meilleure course de Timo Glock, c'est pour ça.
Ah, pourquoi tu crois que j'ai dit pour?
Pour ou pas pour le report de l'introduction du moteur V6?
Pour.
Pour ou pas pour le Schweppes?
Pour.
Pour. Attention, soyons clairs, le Schweppes, pas le Schweppes agrume.
J'ai pas eu l'occasion d'en goûter beaucoup, donc ouais, ah. L'agrume, pas pour, on va dire.
Parce qu'il y a deux camps quand même, hein. Il y a les pro Schweppes, enfin c'est un autre débat, on fera ça dans le SAV du Schweppes, mais.
Émission spéciale Schweppes.
Pour ou pas pour les casques spéciaux à Monaco?
Pour.
Pour ou pas pour les essais libres le jeudi à Monaco?
Pour.
Pour ou pas pour les pneus supplémentaires en qualification?
Pour.
Et enfin, pour ou pas pour Marc Weber chez Ferrari puis Sébastien Vettel l'année suivante?
Pas pour.
Fallait dire pour là.
Ah ouais, désolé, j'ai tout donné sur le Hungaroring.
Alors, tu peux revenir sur trois sujets de ton choix pour approfondir, nous donner ton point de vue, ton opinion.
Je vais revenir tout d'abord sur les casques, parce que je trouve quand même qu'il y avait Pic, Raikkonen, et il y avait Alonso, il me semble. Au moins pour Raikkonen et Pic, c'était des hommages. Du coup, Raikkonen pour James Hunt, je sais qu'il est particulièrement fan de ce pilote qui est tout à fait dans son style. Et pour Pic, il devait y avoir tous les noms des vainqueurs à Monaco avec Senna tout en haut.
Ouais. Oui.
C'est un assez bel hommage quand même. Ça fait plaisir de voir que les pilotes, ils pensent toujours aux légendes du passé et que, ouais, enfin, du passé plus ou moins. Et puis, oui, je trouve ça sympathique comme hommage quand même.
Il y avait aussi Jean-Éric Vergne qui avait un casque couleur de
d'Alesi
qui lui-même le casque d'Alesi est lui-même en fait une reprise des couleurs d'Elio De Angelis qui s'était tué au Castellet au Paul Ricard en 86.
Ah, après il y a Grosjean
pour le 500e anniversaire.
Voilà, voilà,
pour le 500e anniversaire de Lotus.
Donc Alonso qui avait donc ce casque tout jaune et blanc avec le thème classique de la roulette avec des chiffres.
L'année dernière ça d'ailleurs.
J'ai vu que Maldonado, il avait aussi quelque chose à l'arrière parce qu'il va avoir quatre casques sur le thème des éléments, la terre, le feu, et là je crois que c'était The Earth Breaks ou un truc comme ça. The Earth Beats, donc la terre.
Le
rythme.
Feu c'était en Espagne.
Voilà.
Il y a aussi Lewis Hamilton qui depuis le début de saison l'arrière son casque qui a une thématique
course,
voilà, donc je pense qu'à Monaco il a dû suivre.
J'ai pas vu qu'il y en avait autant en fait.
Ouais, c'est pour McLaren, c'était enfin à part peut-être comme t'as dit Hamilton.
Bah c'est assez ouais, c'est assez rare parce que généralement c'est eux qui font le plus, enfin ils mettent des diamants
entre
et
guillemets, c'était devenu un peu une tradition chez McLaren pour Monaco.
Là ils ont fait soft.
Voilà, de faire soft.
Il y a Vettel aussi qui a ressorti son casque avec le sommet du casque blanc où on voyait écrit dessus Monaco. Et je crois qu'en fait c'est un casque où il y a les noms des principales des principaux grands prix historiques, Monza, Spa et compagnie. Et les grandes courses quoi, les courses de légende qu'il a toutes remportées d'ailleurs.
Oui. Est-ce qu'il avait gagné Monaco l'an dernier ou pas?
Oui.
Ah, parce que normalement, parce qu'il paraît que quand il gagne, justement, il ne réutilise pas le même casque.
Oui, mais il a arrêté.
À force de changer de modèle, c'était plus possible.
C'est-à-dire que déjà, dès la fin de saison dernière, il n'arrivait plus à trouver des nouveaux, nouveaux designs, quoi. C'est son designer qui lui dit, non, mais arrête.
Il n'avait plus d'idées.
Arrête. Remets les vieux, c'est pas grave, je t'en voudrais pas.
C'est un budget de moi.
Voilà.
Je sais pas combien ça coûte, un casque.
Alors, sans la déco, déjà, c'est cher.
Ouais.
Donc, en plus, avec la déco.
Et moi, je propose de lancer une pétition pour forcer Kimi Raikkonen à garder ce casque-là. Voilà.
Oui, c'est plutôt pas mal. Bon, ça reste assez simple comme déco, mais c'est sympathique comme.
Bah, franchement, je le préfère à l'autre, quoi. Le qui est très blanc. Voilà.
L'autre, tu l'aimes pas.
Oui, je préfère
ces casques d'avant aussi.
Et à noter que, parce que sur le casque de Kimi, il y avait marqué en gros James Hunt. Faut savoir que sur le vrai casque de James Hunt, il y avait marqué James Hunt.
Oui.
Non, c'est juste pour vous replacer un peu l'ego du type. Il est quand même en énorme son nom sur son casque.
Oui, mais c'est comme ça, si jamais il avait un accident, on savait qui c'était.
Ah oui, ça, on savait.
Alors, je pense que je peux passer à un thème suivant.
Bien sûr.
Oui.
Est-ce que tu peux me rappeler les premiers, ceux pour lesquels je n'étais pas pour?
Alors, pas si. Pour la saison à plus de 20 courses, le déménagement de HRT, et puis Marc Weber chez Ferrari et Vettel l'année suivante.
Je vais revenir sur la saison à plus de 20 courses. Bien sûr, en tant que spectateur, que fan, on dirait pas non, mais je pense que ça fait franchement du boulot supplémentaire pour les équipes qui est déjà quand on voit le calendrier qui s'étend de début mars à bon mi-mars à fin novembre, ça leur laisse pas beaucoup de temps pour souffler. Et encore, pendant la trêve hivernale, il faut bosser sur l'année suivante. Donc si en plus, il fallait rajouter des courses, quitte à pas forcément rallonger la saison, mais raccourcir les pauses. Parce qu'on voit cette année, on a la pause en août qui dure 5 semaines. Mais même pendant, je crois qu'il y a une fermeture des usines, mais quand même, rajouter encore des courses, ça ferait du boulot en plus. Même si on instaurait le principe des petits prix, des grands prix, avec des courses plus importantes que les autres, ça reste quand même du boulot considérable pour les équipes. Tout ce qui est logistique, transporter tout le matériel d'une course à une autre, remonter les voitures et tout ce que ça implique, c'est pas forcément nécessaire, je pense.
Donc, comme troisième thème que tu voudrais aborder?
Weber et Vettel chez Ferrari. Parce que, bon, Weber, à la limite, je dirais pas non, puis ils s'entendent bien avec Alonso et tout. Et...
Oui, d'ailleurs, on l'a revu ce week-end.
Oui. Mais revoir après Vettel et Weber ensemble, bon, ça se passe pas forcément mal. Mais en plus, chez Ferrari, qui a non, quand même.
Je pense que c'est Weber qui fait un an, et après Vettel qui débarque
voilà, à la place de Weber. Ah oui, c'est peut-être Goodbye Weber. Mais. Oui, parce que bon, je sais pas si, il va sûrement quand même renouveler son contrat cette année, parce que je vois ni Vergne, ni Ricciardo monter chez Red Bull cette année. Après, Vettel et Alonso chez Ferrari, à moins que à ce moment-là, Alonso décide de, je le vois pas non plus dans une petite écurie après, de partir à la retraite et de faire monter quelqu'un du...
C'est un peu fait le tour du paddock, c'est vrai.
Oui, mais en fait, quand on parle de deux pilotes, mais on en revient à faire des magouilles avec tout le monde. Donc, à ce moment-là, ouais. Voir quelqu'un du genre Perez avec Vettel, je sais pas trop ce que ça pourrait donner. C'est les magouilles des transferts de toute façon. Voir aller Weber un an chez Ferrari pour ensuite le revoir partir, je pense qu'il ferait mieux de faire sa dernière année chez Red Bull, remporter peut-être une ou deux victoires et partir comme ça au sommet de sa gloire plutôt que bon, il s'enterrerait pas chez Ferrari, mais je me demande quand même si il resterait pas un numéro 2 aux côtés d'Alonso, parce que Ferrari clairement
dévoué. Ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas déjà il y aurait une sorte de préaccord, mais qui serait conditionné au redressement de la Scuderia et à une certaine stabilité technique au sommet, quoi. C'est-à-dire qu'il n'a pas envie de quitter Red Bull pour aller chez Ferrari pour voir les autres gagner sur Red Bull.
Ouais, c'est fait. S'il se rend compte qu'au final, Ferrari nous ressort une trapanelle, c'est pas forcément l'idéal. Quoique, on n'est jamais...
Oh, c'est beau, ce mot.
Quoique, on n'est jamais à l'abri de la même chose chez Red Bull, même s'il y a toujours New Way qui guette, mais voilà.
Ah bah tu sais, Newey, c'est un peu le poissonneur des lilas. Tu vois, il fait des petits trous. Alors ensuite, maintenant des questions supplémentaires. Quelle est l'actu de ces dernières semaines dont tu n'as eu strictement rien à foutre? Et pourquoi?
J'en ai pas vraiment en tête. C'est là que Fan F1 m'aide une grande aide.
Oui, parce que Fan F1 est le spécialiste des actus dont on n'a rien à foutre. Vous voulez une actu qu'on a rien à foutre?
Je vais chercher les actus de score. Donc, mis à part le calendrier à 20 grands prix de la nouvelle idée de Bernie Ecclestone et encore une fois les nouvelles rumeurs sur les transferts, il n'y en a pas vraiment qui me vient en tête, mais bon. Ouais, peut-être quand même l'histoire des pneus de qualification, je suis pas revenu, mais on en reparle plus, ça a été mis en place, plus personne n'était content. Enfin, quoique, il y avait peut-être des gens qui étaient contents, mais bref, ça tout est dit que ça a été finalement annulé, donc bon, qu'on ressorte le débat maintenant, on voit que on parle des Pirelli qui tiennent plus, et en plus, il fallait faire des pneus de qualification, j'imagine même pas combien de tours ils tiendraient, même si en général les runs de qualif sont pas longs. Je vois pas vraiment l'intérêt de ressortir des gommes de qualif pour que ça fasse.
Bah, l'idée de base, alors, en tout cas, c'est la nouveauté, c'est pendant très longtemps, ça a été Pirelli qui se battait tout seul et personne ne les écoutait. Là, vraiment, c'est Bernie Ecclestone qui est intervenu la semaine dernière en disant et en proposant de tout simplement donner un train de pneus supplémentaires aux pilotes en Q3 qu'ils pourront utiliser. De toute façon, ce train-là, ils seront obligés de le rendre à la fin de la Q3,
ouais,
ce qui fait que voilà, ils ont juste un extra train
pour les qualifs.
que pour la Q3. Et là, en termes de conception, il y a rien à produire puisque Pirelli pourrait soit amener un train de pneus supplémentaires du mélange le plus tendre, sans doute, soit pourquoi pas sur des grands prix où ils utilisent tendre et médium, apporter le super tendre en guise de pneus qualif, par exemple.
Ouais, mais pareil, là, c'est un non dé.
Voilà, après, ça devient le bordel.
Voilà, c'est ça, c'est pareil, ça ferait encore d'autres choses à gérer pour les équipes, donc, ouais, ça, je trouve que c'est un non débat, quoi. C'est encore une idée balancée comme ça, mais qu'on prend pas vraiment le temps d'approfondir, et ça, de toute façon, je pense pas qu'au final, ça aura lieu.
Alors ensuite, quelle est l'actu que tu aimerais lire dans les prochaines semaines ?
Timo Glock chez Mercedes ! Non.
Non. D'accord, et au contraire, celle que tu n'aimerais pas lire dans les prochaines semaines.
Maroussia
Timo Glock chez HRT !
Non, non, il ne peut... je me suis dit que Maroussia, il ne pouvait pas tomber plus bas. L'actu que j'aimerais pas lire, Massa qui est viré de chez Ferrari en cours de saison. Parce que franchement, ce serait... Même si... Déjà, là, il s'est un petit peu sorti les doigts du fion à Monaco, mais...
Ça faisait longtemps.
Encore une expression que j'ai dupliquée à Dino. Non, bref. Ouais, parce que franchement, on en a parlé dès le début de la saison. On disait, ouais, Massa, il va pas faire la saison entière. Ils vont faire monter Pérez. Mais comme je le disais tout à l'heure pour les pilotes Rosso, Pérez, je le vois pas monter chez Ferrari en cours de saison. Et puis ça ferait, alors que Ferrari commence à retrouver une certaine stabilité, virer Felipe Massa, ça serait franchement pas une bonne idée, je pense. Mais ce n'est que mon humble avis.
Et enfin, est-ce que tu aurais un drive-thru, quelque chose qui t'a agacé, énervé, que tu voudrais dire, je proteste?
Très bonne question. La FIA, la pénalité de Pérez. Comme je vais pas être très original avec le thème de la FIA. Mais le drive-thru pour il a fait perdre une place à Kimi, c'est même si je le supporte, c'est une faute.
Il fait quand même une méchante queue de poisson, moi je dis ça, et voilà, je dis rien.
Mais
c'est moi le fan de Kimi avec Colin qui proteste.
Mais je trouve quand même que le drive-thru c'était un peu abusé parce que Pérez, il s'est planté en qualif, il part dernier. Maldonado, il a plein de pénalités. Il part dernier, mais Pérez, il a une pénalité en plus, donc il part quand même dernier. Donc bon, même si ça change pas grand-chose à sa position, il a quand même déjà sa course foirée dès le début et qui rajoute en plus une pénalité alors que il pouvait peut-être finir dans les points. Surtout que, ouais, j'ai revu plusieurs fois l'action. Et bon, il s'y prend un petit peu tard, mais en même temps, je suis pas sûre qu'il ait très bien vu à quel point les deux autres arrivaient derrière et il s'est rabattu et il avait pas d'autre porte de sortie en fait. Il rentrait dans les stands où il se retrouvait coincé. Et
surtout qu'il y a une incompréhension du fait la manière dont est configurée cette entrée des stands qui est très compliquée. Tu peux pas non plus te mettre du côté du rail. Je pense sincèrement que Kimi Raikkonen n'a pas pensé qu'il allait rentrer au stand que Kimi Raikkonen se met sur la droite et là Pérez rentre. Bon, bah voilà, c'est malheureusement un type d'accident. Je pense que après la sanction pour moi est méritée dans la mesure où dans l'histoire malheureusement Kimi perd une place.
C'est vrai.
Donc il faut dédommager d'une certaine manière Kimi. On peut pas lui demander de rendre sa place ou quoi que ce soit. Oui. Mais bon, il faut sanctionner Pérez. Maintenant, c'est vrai que je suis assez d'accord que moi personnellement, je pense qu'il y aurait pas eu de dépassement sur Kimi, il y aurait pas eu de sanction parce que voilà, c'est un incident de course, une incompréhension. Voilà, on peut pas demander au pilote de mettre le clignotant pour rentrer ou un truc dans le genre.
Mais oui, entre ça, bon, la pénalité de Schumacher, elle était par rapport à Senna en Espagne, je pense que vous êtes déjà revenu dessus, mais pareil, c'était un petit peu vache quand même de, bon, après, je dis peut-être ça parce qu'il a fait la pole et il s'est retrouvé privé de sa pole qui n'en est pas une. Mais, ouais, je trouve que là, ils étaient au taquet, les commissaires à Monaco, c'était incroyable. Quand ils étaient vraiment, mais quand ils ont mis la pénalité à Maldonado pour quelque chose qui se passait en essai, il me semble, mais
maintenant sincèrement Maldonado c'est mérité.
Oui, ah oui, c'est vrai que ça c'est mérité, mais c'était incroyable.
Pareil, ça fait deux grands prix qui sont au taquet, hein, les commissaires, hein, parce que déjà
Quand ils ont voulu d'être passé sous investigation tous les pilotes qui ont coupé la chicane au premier tour, mais en même temps il y a Grosjean au milieu de la piste avec des débris partout et t'as tout le peloton qui arrive. Il y en a certains, ils n'avaient pas d'autre choix que de couper la chicane, enfin, de couper le tournant. Et
c'est ça, c'est typiquement le problème, c'est-à-dire qu'on a vu, par exemple, que je crois que c'est Jean-Éric Vergne qui explique que lui, sa stratégie a été foutue en l'air parce qu'il s'est retrouvé derrière les pilotes Marussia et compagnie qui avaient coupé la chicane, mais en même temps, tu peux pas pénaliser des gens qui ont coupé la chicane pour des raisons de sécurité. Donc, c'est typiquement, moi, c'est typiquement le genre de cas où j'adore, c'est que, voilà, c'est d'un côté, on devrait sanctionner parce qu'il coupe la chicane, mais en même temps, il coupe la chicane pour des raisons de sécurité. Donc tu peux pas demander au pilote de dire mais même si t'as un accident devant toi tu restes sur la trajectoire, t'as pas le droit de sortir de la piste. Voilà, c'est malheureusement c'est dans ces cas-là tu peux pas sanctionner et ça a impacté la course notamment de Jean-Éric. Bon bah voilà, ils se sont adaptés derrière.
Mais ouais, c'est sûr. Donc bon, l'espère.
Shinji,
vas-y.
Un drive through, Shinji.
Oui, j'en ai un. Alors, c'est un drive-thru qui sera une citation. Je ne me suis pas trompé de semaine, hein, mais c'est... Je ne pouvais pas passer... quand j'ai vu cette citation, je vais vous la donner. Ça a été donné à la Gazzetta dello Sport. Du point de vue du spectateur, ce caractère imprévisible avec 5 vainqueurs différents en 5 courses permet un show exceptionnel. Mais nous devons faire attention que tout cela ne mine pas la crédibilité de la F1.
Je sais qui c'est.
Voir Pastor Maldonado battre Fernando Alonso en Espagne, ce n'est pas vraiment très crédible, et pour les fans également.
C'est vrai.
Bon, oui. Mais quand c'est Flavio Briatore qui sort ces phrases-là, non, désolé, non, il y a des trucs qui passent pas.
Je l'ai vu aujourd'hui, je me suis dit, il fallait que j'en fasse un article parce que c'était vraiment, voilà, juste, voilà, le plaisir de mettre un titre avec dans la phrase, Briatore et
crédibilité. C'est juste, voilà. Et imprévisibilité.
Exceptionnel. Oui.
Voilà.
J'ai rigolé doucement quand je l'ai vu dans le paddock.
À noter, hein, d'ailleurs, qu'il ne critique pas les pneus Pirelli. C'est-à-dire que c'est peut-être un peu trop imprévisible, mais il ne critique pas les pneus Pirelli. Il a au moins ça pour lui.
Voilà.
Mais voilà, oui. C'est...
Rattrape-toi, voilà.
Flavio. Tais-toi, tout simplement. Tais-toi.
Oui, c'est vrai, Flavio, ferme ta gueule. Merci, non, Dino. T'aimes bien, Flavio, tu nous fais rire, mais ta gueule, quand même.
Et toi, Dino, as-tu un drive-thru?
Oui, j'aurai un drive-thru contre les fans de Michael Schumacher.
Voilà. Attention, au moment troll.
Oui,
c'est une communauté très vaste. C'est...
Voilà, alors, c'est messieurs et mesdemoiselles, les fans de Michael Schumacher. Celui qui vous parle présentement est un homme qui a défendu, et Shinji en sera témoin, oui. Mordicus sur le blog de Lionel Froissart,
oui.
Que non, Michael Schumacher ne s'était pas garé volontairement à la Rascas. Donc, comprenez bien.
Je le rappelle, hein, il a fallu 24 heures et que je lui montre la vidéo, hein, avec l'axe du volant, hein, pour qu'il comprenne. Ça a été dur, mais voilà.
Donc voilà, je tiens ça pour une preuve de ma part d'une certaine forme de je suis dans votre camp, les mecs. Mais en même temps, quand Michael Schumacher fait une pole position, en tout cas fait le meilleur temps, parce qu'il faut faire la distinction maintenant. Quand Michael Schumacher fait le meilleur temps, ne montez pas non plus sur vos grands chevaux en disant ah il va tout gagner puis il va être champion en 2013, hein, par expérience encore une fois en tant que ancien fan de Michael Schumacher, je sais que parfois on a un petit peu tendance à, je sais pas comment dire, à s'emballer avec Michael Schumacher pour finalement que derrière ça retombe comme un soufflé. Donc voilà, restons calmes, c'est pas parce qu'il a fait une pole position, elle est magnifique, elle est totalement méritée, ça confirme le début de saison, c'est tout le symbole de son début de saison, c'est-à-dire qu'il fait des belles prestations. Il est plutôt performant, sans doute même meilleur que ce qu'on a vu ces trois dernières années. Mais il a jamais de bol, et il se trouve que le jour où il fait une pole position, on la lui retire parce qu'il a une pénalité de 5 places. Mais voilà, restons un peu mesurés.
Voilà,
c'était mon drive-thru.
Je suis assez d'accord avec toi.
Un bon drive-thru.
Merci, Alex.
On a une autre monologue.
Allez, on va passer tout de suite à la course et au top 10. Et nous allons commencer par des qualifications agitées, des qualifications qui valent leur pesant de cacahuètes, hein, à Monaco. C'est la qualif à ne pas rater dans la saison.
Je les ai pas vues.
T'as raté quand même quelque chose de sympa.
Oui. Ah ouais, ça fait deux fois que je rate les qualifs. À chaque fois, je rate des choses incroyables. Ça m'énerve.
Ah là, en plus, c'est à l'écrescendo, donc waouh. Alors la place du con. Alors on va se baser comme d'habitude sur les temps, parce que quand après il y a en plus les pénalités, c'est merde, c'est bordel. Et pas de bol, ça tombe sur Sergio Perez. C'est pas qu'il a fait un mauvais temps, c'est qu'il a pas fait de temps.
pas fait tant du tout.
Non, mais je pense sincèrement que il a dit d'ailleurs avant la course, dans ses déclarations, qu'il était déterminé, qu'il avait plus envie que jamais de venir à Monaco, etc. J'ai dû même mettre dans la preview d'en découdre avec le circuit monégasque. Et c'est vrai que on a senti en qualification qu'il était très déterminé, qu'il voulait quelque sorte régler des comptes avec un circuit qui lui avait porté malheur la saison dernière. Et il est parti à la faute, quoi. Donc c'est un peu ballot.
Sinon, dans cette Q3, on peut quand même noter que Pedro de la Rosa, sur sa HRT, a fait une 21e place.
Oui, puis je vois le temps, il est tout près de Glock, en fait.
En hein. plus, oui, assez près.
Même pas 2 dixièmes.
2 dixièmes. Donc, en plus...
De la Rosa qui était super fière.
Ah bah, mieux qu'une Marussia.
Sincèrement, le plaisir de lire un pilote HRT être super content d'être 23e,
enfin,
d'être
21e,
c'est juste, voilà, c'est juste, voilà, ça n'a pas de prix.
Oui.
Non, mais, vraiment, j'ai fait le tour parfait, etc. C'était incroyable, les déclarations de De La Rosa. Il dit, je pouvais rien faire mieux, j'ai fait le tour parfait, c'est mon meilleur tour à Monaco.
Il fait 21e, mais c'est sa meilleure qualif.
C'est le petit plaisir, tu vois. C'est comme, je crois que c'est Timo Glock qui s'est battu avec Lewis Hamilton en Espagne, mais il était tout content.
Ah, c'était trop beau.
Glock qui est repassé devant Charles Pic, parce que ça faisait 2-3 courses d'ailleurs que Pic était devant.
Ouais, ça fait 2 fois en qualif que Pic était devant. Bon, en course, à chaque fois, Pic, malencontreusement, un problème, ce qui fait que Glock finit devant. Mais
oui.
Non, je n'ai pas saboté la voiture de Pic. Mais j'aurais pu.
Oula, comment ça nous fait peur.
Sinon, donc, en Q2, alors une Q2 déjà où là ça, bon, déjà la Q1 a été entre guillemets agitée par l'accident et le drapeau rouge, mais en Q2, il s'est quand même passé un truc avec les Lotus.
Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas su.
Bah, c'est-à-dire que quand je dis Lotus, je dis Romain Grosjean, bien évidemment, parce que Kimi, c'est un autre problème, hein. Mais jeudi, ça cartait, matin, jeudi après-midi, ça allait super bien, samedi matin, nickel. Q1, vachement bien, on se dit, ouais, c'est bon, la Lotus, elle va cartonner. Et alors, à partir de la Q2, vlan.
Mais il y a une hausse de la température à ce moment-là. Et certains pensent que ça a peut-être pas forcément réussi à la Lotus.
Parce qu'ils ont dû s'arracher pour aller jusqu'en Q3. Alors, on s'y attendait pas du tout, hein, pour le coup. Et il y a eu un malheureux, c'est Jenson.
13e
place pour Jenson. Alors c'est vraiment très mythique mi-raisin en ce moment, Jenson. Hein. Il accumule les mauvais résultats.
Il fait quand même un week-end pas top, le pauvre Jenson.
Mais ça fait déjà plusieurs courses que c'est pas top. Et même dans les déclarations de Lewis Hamilton, il dit de course en course, on recule. Les autres trouvent de la performance et nous, on trouve rien, quoi. Donc, en tout cas, du côté des pilotes, ça commence peut-être un peu à paniquer, dire là, faut qu'on réagisse parce qu'on est en train de prendre, ils sont en train de prendre du retard.
Ouais.
Même en qualification, là, Hamilton, il se bat un peu pour la pole, mais quand on voit ce que mettent les autres derrière,
Finalement, Hamilton fait aussi un week-end. Il s'en est mieux tiré au final, mais c'est pas extraordinaire non plus. Surtout par rapport, on connaît le talent d'Hamilton à Monaco, on connaît les qualités de McLaren à Monaco. C'était pas un bon week-end pour eux non plus. Et donc en Q3, alors en 10e place, c'est devenu une habitude. Vettel n'a pas fait de temps, avec toujours cet éternel débat. S'il y a des pneus de qualif, peut-être que ça ira mieux.
C'était une histoire de pneus, apparemment.
Ouais, toujours, hein. De toute façon, quand il sort pas.
Il disait qu'il avait plus de tendre neuf, il me disait après sa qualif, alors qu'il avait pas fait de tour.
Mais il veut aussi une histoire de réglage, je crois. Il lutte déjà en Q2 pour passer en Q3.
Il lutte avec Kimi et Jenson.
Voilà, et ça passe.
Ça passe
Kimi et Vettel, ça passe.
Ça passe ric-rac, hein. Donc, Maldonado fait 9. Kimi lui fait 8, ce qui est presque un bon résultat déjà par rapport au début de week-end, hein, puisque jeudi matin, donc il roule quasiment pas puisque il change la colonne de direction, c'est bien ça?
Oui, il a plein de problèmes.
Jeudi après-midi, il sort, enfin il veut sortir, pas de chance, il y a la pluie. Bon, samedi matin, on l'a pas beaucoup vu, je crois qu'il était en milieu de classement. Et alors là, c'est presque un miracle, hein, franchement, de le voir 8e. Hein.
Un miracle, je sais pas. Non,
non mais
il a quand même l'expérience et la voiture pour le faire. Quand tu vois ce que fait Grosjean derrière, ce que fait Grosjean en termes de performance, il y a quand même la performance et la voiture qui est là. Maintenant, c'est lui-même s'est mis dans la difficulté. Enfin, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que il y a un problème de direction que sur la Lotus.
C'est pas la première fois.
Alors, est-ce que c'est parce que du côté de Lotus, quand Raikkonen ça va pas, je pense que c'est ça, parce que Raikkonen c'est un champion du monde et que Grosjean reste un rookie, donc du coup quand il y a un problème de direction, que Raikkonen se sent pas bien, il le dit et on la lui change, ce qui prend du temps. Alors que du côté de Grosjean, on lui dit bah écoute, tu fais avec quoi, voilà. Et donc du coup bah Grosjean il fait avec, il arrive à trouver son rythme et il arrive à s'adapter. Là où peut-être que Kimi ne s'adapte pas, tout simplement du fait de son statut de champion du monde et du fait qu'on lui répond un petit peu trop. Ça fait quand même beaucoup de temps qu'ils perdent, et surtout là à Monaco, tu ne peux pas te permettre de perdre une demi-journée d'essai comme ça. Enfin, moi je comprends pas qu'on lui ait pas dit, écoute, essaye de faire au moins plusieurs tours. Ouais,
quasiment
avec,
la même plus qu'une demi-journée, la journée complète. Je dis oui, franchement, voilà.
Oui, non, mais après ça c'est pas faute à sa décision, c'est faute à la pluie.
Oui.
Mais moi je comprends pas que chez Lotus on lui ait pas dit, écoute, là on est à Monaco, on peut pas perdre la journée, essaye de faire au moins un relais avec, pour vraiment nous dire si ça te convient pas, si tu t'adaptes pas, etc. Là, Kimi, il fait un tour, ça lui plaît pas, on change. Moi, j'arrive pas à comprendre. Ou alors vraiment, il y a un problème de direction mécanique, et qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas sur la voiture de Kimi, et que ça marche sur celle de Romain, alors qu'en plus, c'est des nouvelles directions, puisque c'est des directions qui sont spécifiques pour Monaco.
Oui.
Donc moi, sur ça, je comprends pas.
Oui. Sinon, on va les mettre ensemble, mais donc en 6e et 7e place, les pilotes Ferrari. Et là, faut bien citer les deux parce que alors, s'il y en a un justement qu'on a revu ce week-end, c'est Philippe. Est-ce qu'il était passé en Q3 déjà, Dino?
Non, jamais.
Jamais. Donc là,
la première fois.
Vraiment juste derrière, parce qu'il y a quoi? Il y a un petit dixième d'écart. Donc avec.
Il n'avait pas le meilleur temps de la Q2, quelque chose comme ça.
Oui, il a fait meilleur temps de Q2 et
faut noter que dès jeudi justement, alors pas le matin mais ouais, l'après-midi, sur le très peu de temps où ils ont roulé à sec, enfin je crois qu'au final sur la grille il fait le deuxième ou troisième meilleur temps des libres 2. Donc parce que justement il est sorti très tôt, mais voilà, il a quand même fait le deuxième temps. Et là
Mais lors des essais, c'est là où faut regarder, c'est le point de départ, c'est Alonso. Alors qu'on a vu dès jeudi matin que Alonso, il était au taquet, qu'il était déjà il y a toujours un peu prise de repère sur Monaco. Lui dès jeudi matin, Alonso, il était déjà au taquet et Massa, il était juste derrière quoi. Donc c'est vrai que depuis le début de saison, on le compare à Alonso. Là même ne serait-ce que d'être dans les échappements d'Alonso tout le week-end, c'est signe que Massa, il a fait un bon avant.
Oui,
maintenant, il faudra voir si ça se confirme sur la reste, mais en tout cas en termes de performance, c'est un gros progrès.
C'est pas mal de le revoir devant au moins. Pas seulement devant, mais au moins pas très loin d'Alonso quoi.
Bah oui, voilà. À peu près au même niveau, c'est ça qui est bien. Donc après, donc comme j'ai dit, hein, Alonso fait 6, mais ça c'est assez classique de sa part. Il est toujours à peu près dans ces eaux-là. Romain Grosjean fait 5. Alors il était déçu.
Parce qu'il croyait à la poule.
Ah ouais, on en parlait tout à l'heure, quand on voit ce qu'il faisait depuis le début du week-end.
Il fait deuxième temps lors des deux séances du jeudi.
On les voyait déjà vainqueurs
de sixième. Ah, tout le monde y croyait, hein.
Oui.
Ouais. Puis ça aurait été pas mal pour la suite historique, mais.
Oui.
Mais bon, voilà.
Donc en quatrième place, Hamilton. Non.
Nous n'avons rien à dire sur Hamilton.
Rien à dire sur Hamilton.
J'ai pas vu la qualif, donc je peux pas juger de grand chose, mais quatrième place, la McLaren semblait pas vraiment au top, de toute façon, on voyait bien déjà qu'au moins les Mercedes étaient au-dessus du lot, donc est-ce qu'il aurait pu faire mieux, ça, je sais pas.
Donc en troisième place, Rosberg.
Son coéquipier fait premier, lui il fait 3.
Ouais. Vraie surprise, parce qu'on n'attendait pas forcément quand même les Mercedes aussi bien à Monaco.
C'est vrai.
En plus, comme tu l'as dit, Dino, la température a augmenté, parce qu'on parle toujours de ces pneus, donc on aurait pu imaginer que ça les desserve.
Mais c'est ça le paradoxe, c'est que alors que l'on dit que les températures élevées favorisent plutôt la Lotus et défavorisent plutôt la Mercedes,
ça a été le contraire.
Quand ça a dépassé les 40 degrés Celsius, on a eu plutôt l'impression que ça avantageait la Mercedes et ça n'avantageait pas la Lotus.
Alors que la Mercedes est clairement plus avantagée sur les pistes froides, comme on l'a vu.
Bah on l'a vu en Chine, quoi.
Oui. Et donc sinon, en deuxième place, donc Mark Webber.
On s'en fout, ça, Shinji passe au premier, allez.
Non, mais c'est quand même pas mal de la part de Mark Webber, je veux dire.
Oui, on s'en fout, Shinji passe au premier.
Et donc, en premier, hein, donc avec le meilleur temps, puisque c'est pas la pole, c'est mais le meilleur temps.
Elle est coûtée ou pas, sa pole? Je l'ai...
Non, parce que la pole position, c'est vraiment la personne qui part en première place sur la grille.
Voilà.
Donc, Shumi, hein, qui fait donc, son meilleur temps en 1.14.301, j'ai l'impression de dire sorti de nulle part. C'est-à-dire que, bon, il y a... ça se tirait la bourre, voilà, bon, Hamilton, Webber, et d'un coup, pouf, Schumacher. Ça a vraiment fait ça.
Mais personne n'y croit, enfin, tout le monde, enfin, quand il arrive, on se dit juste, ah, tiens, il reste Schumacher en piste. Et c'est quand on va à l'intérieur,
il est même pas le dernier, il est même pas le dernier à passer, en plus, hein.
C'est pas mal.
Ouais.
Non, voilà.
Non, bon, même si t'as été, bon, critique, t'as dit par rapport au fan de Schumacher, c'est quand même c'est quand même un truc énorme qu'il a fait.
C'est formidable pour Schumacher de faire une pole position. Oui. C'est aussi annonciateur, bah, peut-être qu'il pourra en faire d'autres.
Parce que, voilà, faut souhaiter que ça soit,
etc. Maintenant, de là à ce qu'on puisse s'aventurer en disant, il sera champion en 2013, c'est oublié quand même qu'en face. Ouais. Il a des
Atos, des Hamilton,
des Vettel, voilà, il a de la concurrence en face, c'est pas forcément si facile. Faire des pôles ou des petits coups d'éclat, je pense que Schumacher, moi aujourd'hui, Schumacher, c'est tout ce que j'attends de lui, c'est qu'il fasse des petites pôles, des petits coups d'éclat. Voilà. L'année dernière, il a failli faire un podium au Canada. Si on s'était enflammé, bah, on se serait bien ramassé les dents parce que finalement, il a pas non plus derrière explosé, il a pas fait des podiums et des victoires derrière. Voilà, donc, la fois, attends, on verra.
Espérons-le.
On s'enflammera si jamais il y a une suite de pôles ou une suite de bons résultats qu'on...
Bah, c'est toujours plaisant à voir.
Ah oui.
Bah voilà.
Donc la pole, elle est pour Mark Webber, c'est sa 10e, c'est la 40e pole pour Red Bull, la 196e pour Renault, à une moyenne de 161,654 km/h, mais vous le savez, ça n'a pas été la plus rapide. Alors quand même, pour faire le point sur toutes les pénalités qu'il y a eu, donc Schumacher, il a été rétrogradé de 5 places.
Pour son accident en Espagne.
Maldonado, qui était 9e, a été rétrogradé de 10 places suite à son accrochage avec Pérez, puis a perdu 5 places pour changement de boîte de vitesse. Pérez a été rétrogradé de 5 places, lui aussi, pour un changement de boîte de vitesse.
Mais bon, il partait dernier.
Voilà, il partait dernier, sachant que Pérez, même s'il n'avait pas de temps, a été autorisé à prendre le départ. Voilà, ça, c'est pour les qualifs.
Le service après-vente de la F1 vous présente le top 10 de la course.
Maintenant, on va passer à la course. Et Dino, est-ce que tu peux nous dire quels pilotes, et ils sont certainement très malheureux ce soir, ne font pas partie du top 10?
Oui, Shinji, je peux te le dire.
Oui?
Bah, je peux te le dire, voilà.
Bah, dis-le nous!
Voilà. Tu sais, Shinji, il faut que je me fais désirer, moi. Alors, en sachant, attention, que le vainqueur a marqué 1669 points, et nous vous remercions tous d'avoir voté, le 24e et dernier. C'est vrai que c'est pas énorme, mais en même temps, il y a une journée de moins, généralement, c'est jusqu'au mardi. Là, c'était jusqu'au lundi soir. Donc, le 24e et dernier, Pedro de la Rosa, malgré son magnifique tour en qualification, marquera que 6 points. Daniel Ricciardo, 23e, marque 10 points. On va passer 22e parce qu'il est pas très intéressant, parce que c'est un Allemand qui s'appelle Glock et qui a marqué 15 points, mais bon, c'est pas très important.
Bon, je vais faire mon Romain Grosjean. Au revoir.
Mais les 15 points, c'est toi qui les as donnés, Alexa,
non?
C'est pas vrai. Même j'ai pas mis de points, Glock.
Ouais, elle a pas mis de points à Glock.
Quoi? Oh, mon Dieu!
Tu sais, j'ai lu votre débat dans les commentaires sur les points donnés aux petits. Je me suis dit que dans le cas de la course d'aujourd'hui, d'hier, il y en a qui méritaient plus. Voilà.
C'est bien. T'as vu, Fab, tu as perverti nos auditeurs.
Mais non,
tu le diras, et moi je peux le dire, j'ai pas donné de points à Kimi.
Voilà.
C'est vrai, en même temps, ça se comprend, je dis.
Ouais.
Enfin, par contre, sincèrement, moi
Par contre, toi t'as donné des points à Shumi.
Oui.
Mais par contre, on y reviendra.
Si Kimi marque des points au classement du SAV, moi je dis, faut que tu t'énerves. Faut que tu recadres tes confrères. Parce que... Mais sincèrement, je ne pense pas qu'il marquera de points dans le classement du SAV.
Bon, on va voir ça tout de suite.
21e, Kamui Kobayashi à 16 points. Juste devant lui, Vitaly Petrov avec 17 points et 20e. Avec 20 points, il est 19e. Il était premier il y a 15 jours, c'est Pastor Maldonado. 18e, il domine son coéquipier puisqu'il cumule quasiment 3 fois plus de points, c'est Charles Pic avec 40 points.
Je dis que c'est immable.
Le brillant team pilote de chez Marussia.
Mais pourquoi? Pourquoi Pic, il fait...
question du soir, ça. Pourquoi
il est même pas devant, il se fait doubler par une HRT en qualif.
Non mais c'est ça que je comprends pas, c'est que quand il le mériterait encore, tu vois, il y a 15 jours,
il l'aurait mérité. Il le méritait amplement.
Il aurait mérité d'être 10e, et là il est 11e. Oui. Et là quand il le mérite pas beaucoup, il est 18e, il est 3 fois plus de points que Glock. Qui a été devant lui.
Rien que pour ça, j'aurais dû mettre Glock premier dans mon top 10, sérieusement.
Ensuite, Charles Pic, donc ça c'est dit, 17e, Bruno Senna, 92 points. C'est pour que les gens puissent recomprendre la vanne, Shinji, parce que je suis pas sûr que tout le monde ait compris. Mm. 15e, Jenson Button, 121 points. Mais j'ai oublié le 16e, Sergio Perez, 92 points. Oh, le 14e, Ikki Kovalainen, oui, c'est étonnant. Le 14e, Ikki Kovalainen, 124 points.
Oh non.
Le 13e, Nehran Kartikeyan, 127 points.
Ouais.
Nous avons des auditeurs indiens, Shinji.
Mais pareil.
Je veux le dire, la question du soir, c'est pourquoi?
12e, Nico Hülkenberg, 130 points. Et tu sais ce qui m'inquiète, Shinji?
Oui.
C'est qu'on est au 12e et on n'a toujours pas parlé de qui on a toujours pas parlé de Romain Grosjean.
Oui.
Et là, t'imagines un peu ma tête, tu vois. Là, je suis un petit peu énervé.
Et là, on va énerver notre femme, hein.
Mister Eleven, avec 177 points. Et franchement, pas mal loin de Mister Ten. C'est Paul Di Resta. Et oui. Et oui, Kimi Raikkonen est dans le classement. Et là, je dois dire.
Laisse du suspense.
C'est bon, j'ai pas cité dans les 14 premiers. Alors, c'est écrit dedans. Et là, Fab, je dois dire, je me mets à genoux dans mon salon et je dis, Fab, tu avais raison. Les fans sont trop partisans.
Par contre,
je tiens au nom du SAV, Fab, et à mon nom personnel à te présenter mes plates d'excuses pour ce débat que nous avons fait et où j'ai essayé de te prouver que tu avais tort, mais qu'en fait, t'avais raison, Fab. Je m'excuse.
J'aimerais quand même apporter une nuance, hein. J'aimerais quand même préciser qu'il n'y a pas de fanbase que chez les pilotes finlandais.
Non, 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 je suis pas d'accord. On va en reparler quand on fera le début du classement. Mais sincèrement, je crois quand même que la fanbase finlandaise est un petit peu plus grosse que la fanbase française.
Donc, à noter, Dino, tu as donné 4 points à Perez. C'est pour ça que ça m'a étonné que tu l'oublies.
Oui, parce qu'il fait une super course. Hein. Voilà, moi,
j'ai hésité à lui donner des points aussi.
Il fait une super course, quoi. Bon, oui. Il est pénalisé, il a un accident du départ.
Par dernier, il finit 11e, un peu d'accord, quoi.
Il fait le dépassement. Voilà, il a été incisif. Qu'est-ce qu'on demande, quoi. Enfin, moi, quand j'entends des gens dire, ah, on s'est fait chier pendant la course, c'est quasiment été l'un des seuls quand on l'a vu. Bah, il y avait du spectacle à regarder.
Il a fait spectacle, hein.
Voilà, enfin moi je comprends pas, je comprends pas, je vous comprends pas, chers auditeurs.
Son pilotage reste assez impressionnant quand tu vois qu'à Monaco, sur un circuit, on l'a dit, qu'il est pas forcément, pas très à l'aise dessus, on va dire, et qu'il se déchire, mais ça m'a assez impressionné.
Sa course, sincèrement, moi sa course de Monaco m'a fait plus d'impression que la course en Malaisie.
En Malaisie, il y a des conséquences, la météo a grandement aidé à sa performance. Là, ouais. Il l'a fait tout seul, quoi. C'est d'une autre dimension.
Sinon, on a aussi donné des points à Di Resta. Alors, moi, j'en ai donné un, Dino aussi. Toi, Alexandre, t'en as carrément donné 6.
Ah oui, j'ai trouvé que pareil, il avait fait une plutôt bonne course. Bon, c'est vrai qu'en fait, j'ai hésité à échanger avec Perez. Donc, bon, le mettre 7e, c'était peut-être un petit peu extrapolé, mais. Il fait une bonne remontée et puis avec Hülkenberg, il marque des points assez importants pour l'équipe. Et un petit peu moins que Perez, j'ai trouvé que il faisait plutôt une bonne course, sérieusement. Il finit loin du groupe de tête, mais à un moment entre lui, avant qu'il y ait le serpent de les serpents de tête, il y avait un serpent à cet endroit-là entre Di Resta, Hülkenberg, Raikkonen et d'autres. Et c'était Di Resta qui était devant et je trouvais qu'il gérait bien tout le groupe qui était derrière et que ça m'a un peu impressionné aussi.
Et puis en plus il est qualifié derrière Hülkenberg, bah, il est même pas en Q3 je crois Di Resta.
Il était loin en qualif.
Non oui.
Et il finit devant Hülkenberg, voilà c'est ce qu'on attend de lui quoi, enfin une mauvaise qualification, il a su malgré tout en tirer un bon résultat en course, mieux 7e. Que son coéquipier quoi.
Enfin on a tous les trois donné des points à Kovalainen.
Alors, oui.
Ouais, donc, on en a donné 2, et toi aussi, Alexandre, t'en as donné 4. C'est vrai que c'est une belle course, et on l'a vu, c'est ça qui était bien.
Oui, bon, sur la fin, il s'est peut-être un petit peu énervé, mais résister à Button, Button, il était pas au niveau, et puis, au final, il faisait un petit peu le bouchon comme la NN, mais, pareil, il était sur sa Caterham, et puis, il menait Button, mais comme si de rien n'était à la régulière, C'était plaisant à voir, pareil.
Button a vraiment passé quasiment toute la course derrière Kovalainen. Hein.
Mais oui.
Et sincèrement, moi, ce qui faisait plaisir, c'est que tu sentais que le mec tenait à sa place. Ça a été criant, c'est quand il a le bout de son aileron avant qu'il se barre et que le mec il met deux tours avant de rentrer. C'est vraiment, il y tenait à cette place parce qu'il savait très bien que c'était à Monaco qu'il fallait faire le résultat,
oui.
Et pas ailleurs, pour pouvoir repasser devant Marussia et pour pouvoir, d'ailleurs ça a été très très fêté apparemment chez Caterham, mm. Pour pouvoir repasser devant Marussia et jouer la dixième place qui est vitale. C'est peut-être la dixième place du championnat qui s'est jouée pour lui, quoi. Donc
il faudra une autre course avec plein d'abandon pour que les Marussia puissent passer devant, parce que d'ici là, ce qu'ils finissent 13e, voire 12e.
Voire 12e, oui.
Surtout que c'est qui tout double, c'est-à-dire que s'il abandonnait la course sur la fin, il a réussi à revenir en course, et même après l'abandon,
Glock était tout près à la fin.
Il a quand même réussi déjà à ressortir devant Glock, et en plus, s'il abandonnait, c'était Glock qui faisait le meilleur résultat, et là, les Marussia, enfin, c'était quasiment irrécupérable jusqu'à la fin de la saison. Donc c'était vraiment une course décisive et ça se sentait dans sa manière de piloter et de défendre. Voilà, ça m'a pas choqué qu'ils défendent un peu durement. Quand on est petit et pas rapide et qu'on est devant, c'est la
bataille des écuries. C'est ça que je trouve super intéressant à suivre dedans, c'est que ils se battent pour des places pour les autres grandes écuries. Ce sera insignifiant. Et ils défendent ça. Comme si c'est vital pour eux, donc c'est assez sympathique comme à voir.
Et donc à la 10e place, elle valait 258 points, donc il y avait quand même un bon écart avec le 11e. Il a marqué un point, j'ai envie de dire, il n'a même pas fait ce chiffre en kilomètres, c'est Romain Grosjean.
Et c'est là où quand même, Shinji, tu te rendras compte que la fanbase franco-suisse est forte, certes, puisque Romain Grosjean a marqué des points, mais que encore, il y a des raisons qui font que Romain Grosjean peut marquer des points. Il a fait l'ensemble un bon week-end.
Oui, non, mais on est d'accord.
Voilà. Là où il y en a peut-être d'autres, on l'a pas encore cité.
Je dis juste que ce n'est pas les seuls. Voilà.
On peut supposer quand même.
Non, parce ce que je veux juste dire, c'est qu'on a parfois parlé de fanbase finlandaise, de fanbase espagnole, de fanbase anglaise. Il n'y a pas que celle-là. Il y en a d'autres.
Oui, mais la fanbase française, on en a aussi parlé.
Oui.
Dans le débat qu'on a eu avec Fab, on en a parlé. Ah, bon, je trouve qu'on s'est un peu concentré sur la fanbase finlandaise et la fanbase anglaise. Voilà. Oui. L'absence de fanbase anglaise.
Oui.
Soi-disant. Mais voilà, sincèrement, à la limite, Grosjean qui marque un point, bon, je suis d'accord. Mais qu'il soit derrière Raikkonen, qui a rien foutu du week-end, sincèrement, faut pas nous prendre pour des cons.
Oui, encore Grosjean, il y a sa qualif pour sauver un petit peu, mais.
Voilà, il y a sa qualif, il y a ses essais libres, il est impressionnant, mais en dehors de ça.
Au final, en course, je n'ai pas vraiment l'impression qu'il soit totalement foutu, parce que juste avant, il y a une touchette avec Alonso, donc Grosjean, il se retrouve un peu à l'écart et il voit pas vraiment la voiture qui arrive derrière et donc il referme la porte, mais j'ai pas l'impression que c'était vraiment volontaire, donc bon, il a sûrement une part de responsabilité. Et au final.
Après, ils sont 4 de front à Monaco, quoi.
Ouais, c'est ça, donc de toute façon, ça allait mal finir. Mais...
La course de Grosjean, elle est condamnée au moment où il s'élance mal. Dès qu'il s'élance mal, forcément, il se fait déborder à la fois par Schumacher et par Alonso. Sauf que, effectivement, à Monaco, quand t'arrives à 3 de front, c'est pas possible. Voilà, donc c'est pas difficile. C'est soit il restait sur sa ligne, et dans ce cas-là, il se tapait Alonso, ce qui s'est passé, et qu'en fait, il a été renvoyé sur Schumacher. C'est soit il changeait de ligne, et il tombait sur Schumacher, qui était déjà en train de le dépasser. Donc, voilà. Sincèrement, c'est des circonstances de course qui font qu'il s'est foiré au départ. Vous pouvez pas lui demander non plus de ralentir pour laisser passer les deux autres en disant, je vais attendre après. C'est voilà, il faut aussi qu'il joue son propre départ.
Faut qu'il fasse attention quand même, parce que même si, on est d'accord, c'est un fait de course, ça fait quand même la 3e fois en 6 courses. Hein. Ça fait beaucoup quand même. Même s'il n'est pas tout forcément responsable, là, c'est clair, c'est un fait de course. Attention, parce que ça va commencer à lui coller à la peau, ce genre d'image.
Ça fait 2 fois Schumacher.
Oui.
Mais ça veut dire que c'est aussi valable dans les deux sens. Enfin, on peut parler de Grosjean, mais on peut aussi parler de 2 fois Schumacher. Alors c'est bizarre, parce que ça, Schumacher, personne ne dit, c'est à cause de son grand âge que ça fait que, il a eu un accident là, il a eu un accident en début de saison en Malaisie, il a été impliqué dans un accident, c'est jamais de sa faute, hein. En Espagne, c'est pas de sa faute, il est impliqué dans plein d'incidents, c'est jamais de sa faute, toujours la faute des autres, mais mine de rien, il semblerait qu'il y ait eu des astres qui se soient conjurés pour pouvoir se jeter sur Schumacher.
D'ailleurs, D'ailleurs, on peut noter en statistique en kilomètres parcourus, donc depuis 6 courses. Hein, donc ceux qui ont fait tout, hein, c'est 1799 kilomètres. Hein, ils sont 5 à avoir fait. Alors il y a Vettel, Alonso, Raikkonen, Hamilton et Rosberg. Et en fait, en 6 et 7, on a Restall, Weber qui sont à 1795. De La Rosa qui est 22e, il est à 1190. Schumacher, 23e, 1004. Grosjean, 24e, 943. Bah, de toute façon, c'est simple, hein, en se plantant trois fois, voilà, c'est comme s'il avait fait que trois grands prix, quoi.
Bah, de toute façon, quand il fait même pas un kilomètre au départ.
Oui.
Et comparons un petit peu les résultats de Grosjean en grand prix par rapport au nombre de kilomètres, par rapport, par exemple, à ceux de Schumacher.
Ah oui, là, par contre, le ratio de points est beaucoup plus rentable pour Grosjean.
Il est toujours à la 18e place, Schumi.
Oui, avec deux points. 18e, le dernier à avoir des points. Envie de rajouter quelque chose sur Grosjean, bon, y a pas non plus énormément à dire sur sa course, puisqu'elle a été extrêmement courte. Passons donc à la 9e place. Il a marqué 307 points.
Alors, écoutez-moi ce petit côté ricaneur qui, quand il dit 307 points.
C'est Kimi Raikkonen.
Non.
Pourquoi?
Hurlons au scandale.
Pourquoi?
C'est vraiment la question de la soirée.
Pourquoi? Voilà.
Même en course, il fait rien, quoi. Enfin,
il est absent, hein, c'est.
Bah, il marque des points parce que il reste sur la piste, entre guillemets, il fait pas d'erreur, ouais, il se plante pas, quoi.
Pas d'erreur, mais en même temps, il fait rien d'exceptionnel.
Ouais, il est vraiment là, j'ai envie de dire, au métier, quoi.
Il fait une course, il tourne, il conduit sa voiture, il l'amène au drapeau à damier, puis voilà.
C'est sa course la plus décevante depuis le début de saison.
Il perd même une place. Malgré les abandons, il perd une place. ouais, c'est sans doute, oui, sa moins bonne course depuis son retour, clairement.
Il n'y a pas eu d'autres courses comme ça. Il était
non, parce que justement, les dernières courses, c'était plutôt extrêmement positif. Les toutes premières, il avait manqué de chance, il n'avait pas eu de week-end clean. Donc, c'était vraiment une spirale très positive. Là, non, ce week-end, non, il... C'était pas un... c'est équivalent pour moi, c'est équivalent franchement à un Button par exemple, voilà, ils étaient là, mais bon, voilà.
Et c'est peut-être là où la faute de Grosjean est la plus grave, quoi. C'est que il avait l'occasion ce week-end, il a dominé Raikkonen du week-end, il avait l'occasion de concrétiser cette domination avec des gros points.
Bah oui, Grosjean, il a pas de soucis. S'il a pas de soucis, on peut l'imaginer dans les 5 premiers, ça sans problème.
Surtout à Monaco où si t'as pas de pépin, en général tu gardes à peu près ta position du départ.
À la 8e place, il a marqué 355 points, c'est Jean-Éric Vergne. Alors Dino, tu...
Ah non, Shinji, on vient de me dire qu'il vient de passer des intermédiaires, et on lui retire tous ses points.
Bon. Mais... Alors c'est vrai que Dino, tu lui as pas donné de points, moi j'en ai donné 4, Alexandre en a donné 2. Moi j'ai aimé ce pari. Ça n'a pas marché, mais...
Je crois que c'est dans les commentaires de FNF1 que j'ai lu que de toute façon, il devait refaire un arrêt. Donc,
oui.
Est-ce que s'il avait passé des tendres au lieu des inters, est-ce que ça aurait changé quelque chose à sa position? Je suis pas très sûr. J'ai fait mon top 10 avant de dire ça, moi. Donc, je pense que si j'en avais été averti avant, j'aurais peut-être pas mis dans le top 10.
Parce qu'en fait, il s'arrête, je crois, au 17e tour. Comme justement il est derrière, il est coincé derrière les voitures qui se sont arrêtées, enfin qui ont coupé la chicane au premier tour, il s'arrête donc pour anticiper son arrêt au 17e tour, afin d'être en stratégie décalée par rapport aux autres, et ils ont l'espoir de finir la course avec les mêmes pneus. Sauf qu'ils arrivent à la fin de la course avec des pneus qui ont particulièrement bien travaillé, voilà, et quand il commence à pleuvoir, c'est ce qu'explique comment s'appelle le responsable de chez Toro Rosso, Ascanelli, je crois, c'est vrai, c'est Ascanelli, qui dit à ce moment-là, le niveau d'adhérence n'était pas suffisant, quoi qu'il arrive, on aurait dû s'arrêter pour mettre des nouveaux pneus, même si ça ne s'aggravait pas, ils auraient dû mettre des nouveaux pneus parce qu'avec la légère pluie, ça devenait dangereux pour le pilote, quoi. Donc, il se serait arrêté quoi qu'il arrive, soit pour mettre des temps, soit pour mettre des intermédiaires. Et comme de toute façon, il était relégué en dehors du top 10, le seul moyen pour lui de faire la différence, c'était pas de mettre des super tendres, parce que de toute façon, à Monaco, tu peux pas dépasser. C'était de miser sur le fait que les autres s'arrêtent à cause de la pluie, donc de miser sur des intermédiaires. Moi, j'ai apprécié, c'est surtout, c'est la manière dont il y a quand même un pari derrière.
Oui.
Voilà, voilà, c'est pas le gros pari, le mec qui s'arrête vraiment pour mettre les pneus intermédiaires. C'est au moins, ils ont pris le pari de se dire, bah, on ne perd rien en mettant les intermédiaires, au moins mettons-les, on verra bien, peut-être que ça nous ramènera quelque chose.
Et puis, je suppose que sur TF1, ils ont coupé direct après la course, mais sur RTL, ils sont restés. Mais 10 minutes après la course, il pleuvait des trompes d'eau. C'était, la course, elle aurait duré 20 minutes de plus, ça aurait été drapeau rouge peut-être, parce que c'était.
On sentait sur la fin de course que le temps devenait de plus en plus sombre.
Ouais. Ça semblait clairement. Et puis bon, les points Verne restent assez mérités parce qu'au final, il a fait une bonne distance avec des pneus quasiment KO et donc ça reste une performance.
C'est bien parce qu'en plus, ça se traduit pas forcément en points, mais il se montre, je trouve qu'on le voit beaucoup plus par exemple que Ricciardo.
Ouais, c'est vrai.
Sans forcément, il explose pas forcément Ricciardo, mais bon là il est devant, mais surtout on le voit par rapport à Ricciardo. Et ça c'est vachement bien.
Et ça fait deux fois qu'il tente une histoire avec les intermédiaires. C'était pas en Malaisie qu'il avait fait quelque chose pareil avec en
mettant les intermédiaires. Oui, il était resté sur les pneus avant qu'il y ait le drapeau rouge.
Ah oui, c'est ça.
Passons à la 7e place. Il a marqué 600 points. Là encore un gap assez conséquent. C'est Lewis Hamilton. Hamilton, je lui ai donné 6 points. Dino, toi aussi. Alexandre, tu lui as donné 8 points.
Oui, mais de toute façon,
il fait pas un mauvais résultat, mais on l'a pas vraiment vu.
On était en passe d'attendre un petit peu mieux, mais il était un peu en deçà du reste du top 6, en fait. Même si, au final, il termine 5e, il était. Je sais pas, je trouve que les autres se battaient peut-être un peu plus. Je sais pas. J'ai pas ressenti la même chose pour Hamilton que pour les autres. Mais bon, après, c'est...
Mais je crois que Hamilton aujourd'hui est dans une stratégie qui est j'assure les points intermédiaires, etc. Maintenant, je sais pas, c'est parce que vraiment on l'a senti à un moment donné éteint en course. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on l'a senti éteint. C'est... Et quand ça a commencé à se resserrer vers la fin, on a retrouvé le Hamilton qu'on aime bien voir à Monaco,
plus incisif,
qui commençait à tourner un peu dans tous les sens. Il était derrière Vettel, tu sentais très pressant. Et puis à un moment donné, il a renoncé parce qu'il s'est dit bon, autant revenir. Donc tu sens vraiment d'abord un Hamilton qui a mûri dans la mesure où il serait peut-être allé au taquet l'année dernière. Mais en même temps, tu te dis, est-ce que ça va vraiment payer cette stratégie-là? Parce que c'est pas sûr. Il faut quand même marquer des plus gros points que ça.
Déjà, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas eu de soucis. Hein, parce que quand même, ils les accumulent depuis plusieurs courses.
Ils font pas un arbre au stand d'éclair et clair non plus.
Voilà.
C'est vrai.
Bon, Alonso non plus. Donc voilà, ils ont pas non plus résolu tous les problèmes.
Non. À la 6e place, oui.
Je disais que c'était déjà mieux que les dernières fois, les arbres au stand.
Ah oui, bah oui.
Bah largement.
Ça, c'est pas difficile.
Alors que pourtant, à Monaco, il y a des moyens de faire des boulettes parce que c'est pas très grand.
Ah oui, c'est.
Voilà. Alors d'ailleurs, Lewis Hamilton qui s'est plaint parce que il recevait pendant la course, il a reçu plusieurs fois les chiffres des panneauteurs. Ça l'a fait un peu râler après la course.
Allez, à la 6e place, il a marqué 733 points. Il s'est distingué ce week-end, faut bien le dire. C'est Schumi. Schumi, alors, comment dire, c'est un peu les extrêmes, hein, puisque Alexandre lui a donné un point.
Moi, je porte plus mon top 10 sur la course, moi, c'est.
Je lui ai donné 8 points, parce que, voilà, par rapport, justement, j'ai voulu équilibrer par rapport à sa très bonne performance de qualif. Et comment dire, j'ai envie de dire que pour Dino, le week-end de Schumi se résume à son samedi, puisqu'il lui a donné 18 points. Tu l'as mis en deuxième place.
Oui.
C'est un point de vue.
Non, mais parce que je suis parti du principe que le classement du SAV, c'est un classement qui tient compte de ce qu'aurait été la course sans les aléas de la course et aussi notre aspect un peu plus personnel. Il se trouve que si Michael Schumacher n'a pas sa pénalité, mais là le fait est que s'il n'a pas sa pénalité, il part en pole, il gagne. Bon, il se trouve que le vrai vainqueur, c'est Marc Weber, et que moi, j'ai toujours tendance à laisser le vainqueur. D'ailleurs, depuis le début de saison, tous mes vainqueurs dans mes top 10 sont les vainqueurs de la course. Donc là, j'avais pas envie de le mettre premier. Mais en même temps, ça me faisait un peu chier au regard de sa pole de le mettre. Je crois qu'au début, j'avais mis 8e dans mon classement. J'ai dit, 8e, ça mérite pas 8e, quoi. Je dis, quitte à le mettre, autant le considérer comme le mec qui aurait pu gagner la course, mais qui l'a pas fait, et donc le mettre en deuxième. De plus, il a quand même eu quelques petits problèmes de suspension, d'amortisseur. Voilà, il a quand même pris un joli choc au début. Assez miraculeux, mais un joli choc. Et il fait quand même la course, il faut quand même des coronets.
C'est vrai que... donc, alors, officiellement, il a dit que... Je crois qu'ils ont dit que c'était une pression d'essence, que c'était pas lié. Bon... On peut quand même se demander si...
Sur le coup, on a parlé d'amortisseur.
Voilà, sur amortisseur. Et puis, on a bien vu aussi que l'aileron avant, à certains endroits, notamment près de la chicane, ça frottait bien. Il était tordu, l'aileron. Hein. Mais en effet, tu as raison aussi.
Et c'est un comportement naturel hein, sur la Mercedes, parce oui. que Rosberg aussi, ça le faisait.
Mais là, ça faisait vraiment prononcer. Il est quand même énormément chanceux sur le choc. Il se fait pas parce qu'il aurait pu se faire décalquer contre le rail, hein, y a pas d'autre mot.
Ça peut se finir très très mal. Hein,
donc y a ça. D'un côté, soit il se fait décalquer contre le rail, par bonheur, il n'a pas son pneu, je vais même pas dire son pneu, mais c'est tout l'ensemble, pneu plus suspension qui aurait pu s'arracher, que dalle. Ou en tout cas, s'il y a eu quelque chose, ça a été très très minime et ça a eu plutôt une influence sur le long terme. Il a été, mais alors d'une chance sur cet incident. Incroyable. Là,
globalement, on le dit pas, mais globalement, l'incident du départ, c'est un petit miracle pour qu'il n'y ait que des dégâts matériels, parce que quand même, Grosjean se retrouve en plein milieu de la piste. Il y a quand même une Sauber qui s'envole à un moment donné. Comme tu l'as dit, il pouvait très bien se faire tasser contre le mur Schumacher. Si se tasse contre le mur derrière, c'est des débris partout, des monoplaces dans tous les sens. Il y a plus de Grand Prix à ce moment-là.
Ah oui,
puisqu'il y a pas de mulet.
Il y a plus de mulet, derrière. Donc.
Donc ça fait vite du déménagement.
Ce qui m'a étonné, c'était la suspension de la Mercedes qui prend un choc et qui reste intacte, alors que la suspension de la Lotus, elle casse. Je sais pas si la force est ressentie pareil des deux côtés, mais ouais, c'était assez étonnant.
Les suspensions chez Lotus sont un peu fragiles.
Et sinon, plus sur la course de Schumacher, vous l'avez trouvé comment?
Je l'ai pas beaucoup vu au final, en fait. Il a abandonné quand? Vers la moitié, il me semble.
Il a abandonné au 63e tour, donc
oui, quand même.
Ouais, ça fait 15 tours de l'arrivée, au trois quarts.
C'est-à-dire que en fait, il s'en est bien sorti finalement de l'incident. Il passe un peu entre les gouttes et après, il fait une course qui est pas désagréable quoi. Enfin, je crois qu'il est après
il garde des positions, donc il est huitième. Il reste très longtemps huitième derrière Kimi. D'ailleurs, Kimi l'a bouchonné. À un moment, on a vu le serpentin avec Kimi qui clairement bouchonnait Schumacher et le reste. Non, oui, il a toujours navigué, oui, entre la huitième et la sixième place. Une course assez stable, finalement.
Qui était pas mal. Il a peut-être voulu, à mon goût, en faire un petit peu trop au départ. C'est vrai qu'il déboîte quand même largement. Le départ de Grosjean est pas terrible, mais de là à déboîter comme Schumacher
sur l'extérieur, en plus.
Super déterminé. En sachant qu'en plus, ça va se battre et se rétrécir devant. Donc, il était quand même très déterminé. Voilà, donc c'est.
Parce que, pour faire ce qu'il fait, faut quand même avoir l'assurance d'être devant une voiture, 200 mètres plus loin. Parce que à Saint-Dévot, voilà, si le carnage est pas avant, il peut avoir lieu à Saint-Dévot, hein, voilà.
Alors justement, on peut peut-être aussi en profiter, comme on parle de carnage, pour saluer le travail des commissaires et de l'organisation de Monaco, qui a fait des aménagements sur la piste. Ils ont gommé les bosses au freinage de la sortie descente.
Ils ont aplani la bosse, même si on l'a encore un peu perçue, la bosse, parce que je sais plus qui c'est. C'est pas Vergne, non. C'est vert.
Il y en a deux, trois qui sont partis.
Qui sont partis. Donc, ils ont transplanté un arbre. Hein, ils l'ont déplacé, ils ont reculé. Ils ont légèrement, apparemment, redessiné la chicane.
Et surtout, ils ont mis un asphalte antidérapant. Et ça s'est vraiment vu avec notamment la Toro Rosso de Vergne en qualification qui part, brise son aileron à l'intérieur du verre de la chicane, qui ensuite glisse jusque dans l'échappatoire. Et là, l'échappatoire, il s'arrête quasiment directement. Donc on peut vraiment dire que ça a été une bonne décision de mettre ce composé à granulométrie très forte, comme dirait Jean-Luc Moncey.
Pareil, c'est du papier de verre.
Ouais. Et voilà, et aussi rappeler quand même qu'on a vu un accident GP3, je crois, où une voiture s'envole sur une autre,
et puis frapper contre décolle
quasiment au même endroit. Finit par voler. C'est quand même à deux doigts de passer au-dessus. Des grillages de protection. Et donc rappeler qu'à Monaco le risque existe quand même. On aura beau faire des travaux tout ce qu'on voudra, ça c'est quand même un circuit risqué. Comme l'a dit Michael Schumacher, C'est une exception dans l'année, on peut bien faire ça une fois dans l'année.
Ah, mais c'est vrai qu'en GP2 et en Formule 3.5, ils ont trouvé la solution pour doubler à Monaco. Tu passes pas ni à gauche ni à droite, tu passes au-dessus.
C'est pas facile.
Non, mais c'est n'importe quoi, les courses GP2 et GP3.
Même c'est la 3.5, hein, parce qu'il y avait le droit arrière. Parce qu'il y avait la 3.5 aussi, apparemment, il y a aussi quelqu'un qui a décollé. Hein, mais...
Non, mais sincèrement, en GP3, t'as quand même un mec qui a plus d'aileron arrière. Et qui continue de rouler. Non, mais c'est, on n'a jamais vu ça. Et le mec, il est à fond, il défend sa première place. Il se permet de changer deux fois de ligne.
Non, il défend sa position, il n'a plus d'aileron arrière, mais, comme si de rien n'était.
Et c'est vrai que t'as certains endroits où, par exemple, après le casino, quand ils descendent là sur Mirabeau avant le Loves, quand t'as les voitures qui sont coincées là, que t'as les commissaires et que t'as les voitures, même si elles sont sous safety car, qui passent à un mètre, ouh, ça doit quand même être super impressionnant.
Il y a d'ailleurs eu une petite frayeur pendant la course quand ils ont retiré la voiture de Grosjean. Puisqu'ils étaient en train de la retirer, ils ont vu les mettre sur des cales, ils étaient en train de la retirer, et là tout d'un coup la meute arrive. Les mecs sont encore en plein milieu de la piste avec 23 F1 en perspective.
Il faut dire aussi que c'est un tiers de la piste qu'ils refont chaque année. Oui. Avec ce mystère, oui. C'est-à-dire qu'ils ont, alors, ils ont réussi à raboter la bosse en sortie de tunnel. Par contre, il y a toujours le petit creux après le casino. Toujours. Ça fait des années qu'il est là.
Non mais ça, tu le retires, c'est plus Monaco. Ça, t'es obligé de le laisser.
La plus grande chicane naturelle, parce qu'il y a rien, mais c'est une chicane. Non mais c'est vrai que, puis alors ça donne aussi parfois des images avec les grues. En plus, les réalisateurs s'amusent à laisser les caméras intérieures sur la Williams, même quand elle est à 10 mètres au-dessus du sol. C'est assez sympa. On va passer à la 5e place.
Oh oui.
À la 5e place, c'est un pilote Ferrari.
Lequel? Oui.
Pas Fernando.
Non, quand même.
Pas Fernando. Eh bien, en effet, mais ce n'est pas Fernando, c'est Pépé. Il a marqué 189 points, mais c'est quand même... D'ailleurs, on l'a tous les trois mis 5e. Hein.
Je crois qu'il n'a jamais été aussi bien placé dans le SMS cette année.
Ah, cette année, ouais.
Felipe, le retour.
Cette année, son classement, il est passé de 1 à 11. C'est bien simple.
Oui.
Non, enfin.
Oui, surtout un week-end complet.
Oui.
Et même encore, on attendait limite mieux quand on voit comment il se déchire en ER et au début des qualifs.
Mais c'est vrai que même à la limite, ouais, c'est vrai que la course pourrait paraître décevante quand on voit le reste.
Et même en début de course, il était un
peu... Bah, il klaxonnait
derrière Alonso, hein.
Ça m'a permis de faire des petites blagues sur Twitter comme Fernando, Felipe is faster than you, can you confirm this message? Et Fernando qui répond no hablo inglés. Non, il a fait une belle course, vraiment ce qu'on attendait de lui. Alors, est-ce que c'est le déclic? Est-ce que c'est juste un éclair? Moi, malheureusement, historiquement, chez Massa, c'est plutôt des éclairs. Voilà, donc faut voir. J'espère que ça se confirmera dans les prochains.
Faut espérer que ça soit le début et pas simplement parce que c'est Monaco. Alors, ce qui est étrange, c'est qu'en plus, il paraît que Monaco, c'est un des circuits qu'il aime le moins. Oui. Il l'a gagné, pourtant.
Non, il a fait une pole.
Il a fait une pole, exactement.
C'est Lewis qui a gagné à sa place. Le dernier poleman qui a pas gagné, c'est lui.
Bah, ça fait plaisir de le voir de retour aux affaires, mais oui, il faut espérer que ça continue quand même. Que rien que pour la dynamique pour Ferrari, c'est déjà mieux d'avoir au moins un pilote ennemi que d'avoir un pilote tout seul.
Ah, c'est sûr que avoir deux pilotes, l'un qui fait 3 et l'autre qui fait 6, c'est déjà beaucoup plus du standing de Ferrari. Hein.
Voilà.
Mm. Oh, c'est encore un peu faible, je dis.
Oui, mais voilà, c'est déjà beaucoup mieux.
Oui.
On passe à la suite.
Tout à fait.
Bah oui. Oh oui, vas-y, on passe à la suite, ouais. Je l'aime bien, le suivant.
Oh là là. À la 4e place, il a marqué 918 points. Je lui ai donné 15 points. Alexane et Dino lui ont donné 12 points. C'est Sébastien Vettel.
Bah, il fait une belle remontée. Bon, il part combien? Il part 9e.
Sur la stratégie.
Voilà, c'est stratégique.
C'est une course à la stratégie, Vettel. Hein.
Et c'est une bonne opération quand même, quoi.
Mais c'est ça, c'est quand je vois dans les commentaires, je crois que c'est Fab qui dit oui, mais bon, c'est la stratégie. Mais en même temps, comment tu veux faire autrement, Monaco? J'ai l'impression que ce week-end, c'est à peu près le seul avec Fernando Alonso qui a compris ce que c'était la course à Monaco. C'est de la stratégie pure et simple. Tu ne dépasses que par la stratégie.
Ou alors, il faut des couilles grosses comme des boules de pétanque, faut le dire.
Hein. Oui, voilà. mais moi, je l'ai mis devant Rosberg. J'ai mis Rosberg assez bas parce que Rosberg, il a rien tenté, même pas de la stratégie. Alors que là, au moins, là, Vettel, il a tenté un truc avec la stratégie. On se reforme, bien évidemment, sur les qualifications, etc., et ça peut se discuter. Mais le fait est que il a joué de la stratégie, je n'en ai pas fait d'autres, et ça a été pareil pour Alonso. Donc, ils ont gagné des places. Pour moi, c'est, la recette à Monaco, c'est avant tout la stratégie, c'est pas le dépassement. Donc voilà, c'est, le mec, il a compris la recette, et il mérite que des bons points.
Moi, à la limite, ce qui m'agace, c'est le côté que ça vient aussi du fait qu'il ait pas fait de temps en Q3. Alors bien sûr, on peut dire que finalement il compense un mauvais résultat de qualif contre une bonne stratégie. C'est toujours ça m'embête. Enfin, il y a un côté, je dirais pas que c'est de la triche, tu vois, mais je sais pas si tu comprends, tu vois. C'est stratégique. Il y a un côté un peu magouille, mais même si c'en est pas une.
Mais c'est là où on atteint la limite, c'est-à-dire que dans l'article sur les pneus de qualification sur FanF1, j'ai repris justement les déclarations de Ross Brawn, je crois, qui explique que lui il dit voilà, moi j'ai pas vraiment de position sur ça. Je me dis simplement que c'est comment dire, aujourd'hui les qualifications dans leur format actuel, elles permettent aux équipes qui savent très bien qu'elles n'ont pas leur chance de faire la pole, de bénéficier, de rééquilibrer un petit peu, de compenser grâce à des pneus plus neufs en début de course, et donc de redevenir un peu compétitive en début de course et d'assurer le spectacle. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même un pilote à bord d'une voiture qu'on sait compétitive, qui peut jouer la pole, puisque Weber l'a joué, qui a économisé. Donc là, on est tout d'un coup dans un système où certes, ça avantage bien les petites équipes sous-performantes qui arrivent en Q3, sauf que là, la Red Bull n'est pas une équipe sous-performante. C'est l'équipe qui a gagné le Grand Prix, c'est l'équipe qui a fait la pole. Donc théoriquement, il n'y avait pas de raison qu'il économise des pneus. Donc c'est là où je comprends ce que tu dis, c'est que c'est pas la tricherie, mais en même temps, c'est pas non plus totalement dans l'esprit qu'on aimerait voir du sport. Et c'est là où vraiment faut essayer de trouver une solution pour ces qualifications, en tout cas pour la Q3, parce que c'est pas normal de voir des pilotes. Voilà, de voir les pilotes économiser. Voilà. Mais en même temps, c'est aussi l'inconvénient, c'est que après, si par exemple on instaure les pneus de qualification en mettant tout le monde à un train de pneus, bah, tout le monde va devoir repartir avec des pneus neufs en début de course, sans doute les mêmes pneus. Donc, quel va être l'intérêt stratégique en début de course, en tout cas dans les 10 premiers? C'est-à-dire qu'il vaudra mieux finalement ne pas aller en Q3, être 11e, plutôt d'être 10e, puisque tu seras forcé de faire un tour en qualif. Donc voilà, on arrive toujours dans des problèmes. Moi, je pense que si on doit réfléchir aux qualifs, il faudra peut-être finalement se poser une question globale sur le format des qualifs, qui aujourd'hui est très bien. Moi, j'aime beaucoup ce format, mais qui ne convient peut-être tout simplement pas aux pneus Pirelli.
Même sur le format des courses, hein, parce que forcément, ça influe le fait que, notamment, on doive changer en cours de course. Tu peux pas changer les qualifs sans qu'il n'y ait pas une influence aussi sur la course.
Mais Vettel a fait une belle course.
Oui.
Un beau premier relais.
C'est bon.
Alors, Gary Anderson, analyste de la BBC, et pour Autosport, a quand même dit, et là je serais assez d'accord, qu'il n'arrive pas à comprendre pourquoi, pendant que Weber était rentré au stand et que tout le monde derrière était rentré au stand, il n'arrive pas à comprendre pourquoi Weber a pas un petit peu bouchonné pour permettre à Vettel de gagner plus qu'une seule place. Parce que finalement, Vettel, quand il rentre au stand, il gagne pas mal de places au départ. Il est sixième et il termine quatrième, je crois. Donc il gagne une place ou deux dans les stands grâce à sa stratégie. Si Weber avait retenu un peu la meute pendant 2-3 tours, et ça aurait peut-être permis à Vettel de finir deuxième. Avec le risque peut-être que Vettel ressorte devant.
Est-ce que très basiquement, il a pas voulu simplement avoir le maximum de temps devant le deuxième, sachant qu'il n'y avait pas de safety car, qu'il n'y avait pas de pluie, qu'il y a toujours des risques de safety car, qu'il y a toujours des risques de pluie. Très très basiquement, hein, je dis bien sûr. Hein.
Oui, non, peut-être, mais je sais pas, moi, ça aurait peut-être mérité d'être tenté, quoi. Au moins de la part de Red Bull, pas de la part de Weber. On peut rien reprocher à Weber. C'est le coup de stratégie de Red Bull qui est peut-être pas. Ils ont peut-être pas été assez vicieux, mais au moins se dire, bah au pire de toute façon, comme ça, on aura au moins une voiture en tête, c'est sûr. Peut-être qu'ils se sont trop dit, va y avoir la pluie, il y aura pas besoin que Weber nous retienne. Un peu le peloton pour qu'on finisse deuxième avec Vettel ou peut-être même premier, puisqu'il y aura la pluie, donc dans un cas ou dans l'autre, on est gagnant. Sauf qu'ils auraient peut-être pu faire le doublé, finalement. En faisant ça, ils auraient peut-être pu dire, Weber retire un peu la meute, si jamais il y a la pluie, Vettel gagne, Weber est deuxième, donc c'est bon. S'il n'y a pas la pluie, bah, Vettel, quand il ressort deuxième ou peut-être premier, mais en tout cas, on a aussi le doublé. Ils auraient pu jouer le doublé dans les deux cas.
Ah, c'était un coup à jouer.
Passons au podium.
En troisième place, c'est marqué 1135 points. On dépasse les 1000. C'est Nico Rosberg. Alors Rosberg, je lui ai donné 12 points. Dino, ouais, tu lui as donné 8 points. Et Dino, tu vas pouvoir te venger sur Alexandre parce qu'Alexandre, elle lui a donné 18 points.
Oui, mais j'ai de toute façon, mon top 10, c'était une hésitation constante. Au final, le top 4, j'ai laissé tel quel. Mais j'ai franchement hésité à me mettre un zoo 3e, 2e, voire 1er. Parce que bon...
Oh non, mais... tu m'aurais fait plaisir, Alexandre.
Je sais pas si au final, Ferrari a vraiment fait un grand bond en avant. Mais... Alonso, il se bat toujours, quoi. C'est pareil, tu l'as dit tout à l'heure, il a compris la philosophie de Monaco et ils ont gagné un petit peu de temps au stand. Mais
et sur Rosberg?
Rosberg, il fait une course. J'ai pas eu.
C'est même là quand on parle de Rosberg, on le voit pas.
Ouais.
Mais oui, j'ai pas. Contrairement à Alonso, j'ai pas eu l'impression qu'il ait tenté quelque chose vraiment. Il a géré en fait. Des fois, il faisait quelques attaques sur Weber quand il en avait l'occasion, mais c'était jamais très prononcé.
Mais moi, là où ça a été le plus frappant, c'est-à-dire qu'encore au début, je me dis, bon, ça se trouve, il peut pas aller chercher Weber parce qu'au niveau des pneus, il s'arrêtera avant. Il peut pas tenter véritablement par stratégique. Mmh. Mais peut-être, à la limite, justement, comme il pouvait pas peut-être attaquer et puis essayer de pousser à la faute Weber. Donc, bon. Après, à la limite, je me dis, bon, d'accord. Imaginons, il y a des stratégies et qu'il avait peur de se faire dépasser derrière, de faire une faute ou quoi que ce soit. Bon, d'accord. Mais quand même, à la fin, quand il se retrouve à la queue leu-leu, t'as Hamilton qui essaye de tourner autour de Vettel, t'as Vettel qui essaye de tourner autour d'Alonso, t'as Alonso qui essaye de tourner autour de Rosberg, et t'as l'impression que Rosberg, il est pas du tout en train de faire chier Weber, que Weber, il est tranquille devant. Et moi, j'ai pas vu une seule fois, j'ai pas eu l'impression que si jamais il y en avait un qui devait gagner, alors qu'il était quand même deuxième, s'il y en avait un qui devait gagner grâce à une manœuvre un peu kamikaze dans les derniers tours, c'était Rosberg.
En plus, on a vu.
Je me suis dit, ça sera soit Alonso, soit Hamilton.
En plus, on a vu que la Mercedes marchait bien. C'est ça qui est fou, en plus.
Moi, j'ai vraiment eu l'impression qu'il s'est contenté de la deuxième place. C'est tout à fait compréhensible. Ça manque de points et que voilà, c'est le championnat est serré. Maintenant, j'ai un peu peur que le championnat devienne chiant. À force de voir tous ces pilotes qui se contentent de prendre les gros points intermédiaires, faut aussi aller chercher plus que des gros points intermédiaires. Ce que fait par exemple Alonso, ou ce que fait aussi Vettel. Vettel, il accepte en qualification de partir 8-9 pour gagner ensuite plus de points, en disant j'ai peut-être gagné plus de points comme ça. Enfin voilà, ça commence un peu à m'inquiéter de voir vraiment les mecs jouer un peu trop. Si je prends 18 points sur cette course-là, peut-être qu'à la fin de saison, ça va payer.
Non, mais le pire, c'est que le début, parce que vu la configuration de saison qu'on commence, enfin, entre guillemets, on est déjà à 6 courses sur 20, ça risque d'être de plus en plus ça. Hein. Donc, je garde le maximum de points intermédiaires parce que c'est tellement imprévisible cette année, ça risque de se généraliser le long de la saison, tant qu'on est dans cette configuration championnat.
Et puis, c'est à double tranchant parce que autant ils peuvent assurer des gros points intermédiaires et ça peut leur être bénéfique après, mais autant s'ils se, entre guillemets, contentent de ces gros points, est-ce que plus tard, si c'est un peu toujours le même qui est aux avant-postes, est-ce que plus tard, ça peut pas, ils peuvent pas se dire mince, on aurait dû aller chercher la troisième, la deuxième place, faire la victoire. C'est... Mais en même temps, à Monaco, ils ne pouvaient pas forcément tenter énormément de choses. Mais au moins, au niveau de la stratégie, faire comme Vettel ou Alonso et aller chercher quelque chose plutôt que de rester sur la piste et d'assurer les points. Quoi.
Mais c'est là où finalement, voir Alonso leader, c'est chouette parce que on voit bien que si aujourd'hui Alonso est en tête, c'est parce que c'est peut-être lui qui tente le plus, c'est lui peut-être qui attaque le plus en ce début de saison. Alors c'est vrai que de l'autre côté, il y a aussi Hamilton qui a beaucoup de problèmes et qui aurait mérité d'être devant, mais on sent quand même que c'est lui qui va le plus chercher les points. Alors, là où les autres, on n'a pas vraiment l'impression qu'ils vont les chercher les points.
Pour basculer sur Alonso, hein, qui a fini deuxième, hein, 1325 points, je ne sais pas si vous aviez d'autres choses à dire sur Rosberg, le fait qu'il soit premier... Je me souviens, il y a deux semaines, on avait dit, ouais, le classement, il est un peu étrange. Au final, au bout de cette sixième course, le fait qu'il soit premier, c'est la conséquence directe de cette phrase qu'on dit toutes les semaines, il ne lâche rien, il est toujours là. Et donc, naturellement, il est devant parce qu'il est toujours là.
Mais même là, au niveau de stratégie, hein, même moi, je reste convaincu que si ils font encore durer quelques tours Alonso son relais, Alonso, sincèrement peut jouer la victoire. Là encore une fois, je m'appuie sur ce que dit Gary Anderson. Il dit, il suffit juste qu'il le laisse 3-4 tours en plus. Les pneus pouvaient le faire. Il suffisait vraiment qu'il fasse 3-4 tours en plus. Ils auraient pu jouer la gagne. Là où en fait, là encore une fois, même c'est là où on voit le championnat où c'est peut-être un peu le travers que va prendre le championnat et qui va devenir intéressant, lassant à longue. C'est que même chez Alonso, bien qu'il attaque et bien qu'il essaye de gagner des places, on voit quand même que quand on a atteint une place qui convient, là le podium, ils visaient le podium, ils étaient sur le podium, et ben voilà, on se contente de faire le minimum. On prend pas de risque. Là, on a senti que Ferrari, ils ont ravitaillé un tour d'après, ils avaient fait la différence pour monter sur le podium, mais ils ont pas non plus voulu prendre le risque de faire un tour de plus ou deux tours de plus pour voir s'ils pouvaient pas gagner quelque chose en plus. Donc même là, on sent que vraiment ça se contrôle énormément.
Ouais, ça va être ça. Là, bon. Les choses peuvent encore énormément changer, mais il n'est pas impossible, si ça reste comme ça, qu'on ait un champion avec 4-5 victoires maximum, et même que le champion ne soit pas celui qui a le plus de victoires. Alors là, si c'est comme ça, ça va arriver gros comme une maison. Oui. Sinon, sur la course d'Alonso...
Rien à dire. Enfin...
Ouais, on a tout dit.
Alors on va passer au premier. Je suis pas sûr qu'on ait beaucoup plus de choses à dire.
Oui, non mais c'est bien qu'on passe au premier de temps en temps. Parce que des fois on oublie un peu de parler des premiers.
Oh écoutez, hein, c'est pas comme si on n'avait pas parlé de Maldonado pendant toute l'émission il y a deux semaines. Hein.
Tu remarqueras que personne n'a remarqué.
C'est vrai.
C'est vraiment parce qu'on l'a avoué que. Voilà. Mais sinon personne n'avait remarqué. Voilà, donc on s'excuse, hein, bien évidemment. On n'a pas parlé réellement de Maldonado, mais on en avait parlé un petit peu transversalement un peu partout.
Oui, voilà, donc, c'est pour ça.
Voilà, c'est ou même ça nous a pas choqué. C'est seulement en faisant le montage que même après le montage, je me dis c'est bizarre, on n'a pas parlé de Maldonado. J'ai dû repasser un petit peu sur le montage et là j'ai appelé Chidi en disant, j'ai dit on n'a pas parlé de Maldonado. Et voilà.
Comment ça on n'a pas parlé de Maldonado? Ah bah ouais, on n'a pas parlé.
Généralement, de toute façon, le premier c'est celui où on a généralement le moins de choses à dire.
Bon, on en a déjà...
Parce que c'est celui qui fait le moins polémique.
On en a déjà parlé avant.
Comme souvent, parfois, il parle de la pole et puis voilà, donc il lui arrive rien spécial. donc Weber, 1669 points, on l'a tous les trois mis premier. Voilà, il peut être content quand même hein, que Shui s'est pris 5 places de pénalité. Parce que ça lui est tombé dessus comme un paquet cadeau quand même cette pole. Hein.
Oui, et puis ça aide vraiment à Monaco quand même, partir de la pole.
Bon, après, bah, il est parti en pole, il n'a pas fait d'erreur. Voilà.
Il a pas fait une course. Moi, sincèrement, je le laisse en tête parce que c'est le vainqueur de Monaco et voilà. Pour moi, le mec qui gagne à Monaco, il mérite sa victoire. Mais il a pas non plus fait une course extraordinaire, quoi. Enfin, il s'est pas dégagé.
Quand on est premier comme ça, on n'a pas à faire une course extraordinaire. C'est de la gestion.
Mais voilà. Surtout à Monaco. Là, c'est à Monaco que tu gères le plus.
Ah bah oui.
Mais voilà, il a pas été surexcitant, mais il a gagné, quoi. Au final, ça a été payant.
Il a même pas été trop gêné par une safety car. Il y en a, enfin, si, il y en a eu une au tout début, finalement, mais. Après, il y a rien eu. La pluie, bon, il y a eu quelques gouttes, hein, mais rien de vraiment gênant.
Bah, si il pouvait rester sur les tendres, de toute façon, la pluie était assez infinie.
Donc, au classement, eh bien, c'est Alonso qui est en tête avec 83 points devant Raikkonen 71 et Execo, Vettel et Weber 63 points. Et Hamilton est 5e avec 61.
Ce classement est n'importe quoi.
Au niveau des équipes, Red Bull 126, McLaren 110, Lotus 107, Ferrari 94. Dans l'autre classement, eh bien, c'est Alonso aussi qui est en tête.
Ah, c'est un brillant classement.
Avec 76 points. Hein, il a quand même moins de points que chez nous.
Oui.
Devant Vettel et Weber qui sont à égalité avec 73 points. Et vous remarquez, ils sont aussi à égalité chez nous.
Pas mal.
Hamilton 63 points, à noter donc qu'ils sont 6 en 25 points hein, puisque Raikkonen est à 51 points.
Oui.
Au niveau des constructeurs, c'est Red Bull aussi hein, qui est premier avec 146 points. Là, il y a un petit écart qui se forme hein, devant McLaren 108, Ferrari 86 et Lotus aussi ex-aequo 86.
Finalement. Ouais, McLaren se méfie parce que d'abord, il y a Red Bull qui avance devant.
Bah oui, voilà.
Et il y a Ferrari qui est pas si loin que ça derrière.
Ils font de bonnes opérations, hein, Red Bull. Là, 1 et 4, quand McLaren, ils font
5 et 0.
Si on regarde les scores hein, depuis le début de saison, les meilleurs scores pour une équipe, qui a eu McLaren en Australie qui a fait 40 points. Et ensuite, c'est Red Bull à Bahreïn et à Monaco qui ont fait 37. Après, oui, il y a McLaren à 33, et puis Lotus une fois 33, sinon il y a personne d'autre n'a fait plus de 30.
Ouais. Bon, Ferrari, il n'y a pas de résultat commun. Hein,
oui. À noter aussi que pour l'instant, sur 6 courses, il y a que deux pilotes qui ont toujours été dans les points, c'est Alonso et Hamilton.
Ouais.
On va passer au fait marquant.
Bah, on peut quand même, je dis, saluer cet exploit historique, 6 vainqueurs différents.
Oui. Mais attends, ce n'est que le début.
Non mais alors, quand même.
Si ça se trouve, on va avoir 7 différents. Peut-être 8 différents.
On a Hamilton vainqueur, et puis voilà, il aura de toute façon une victoire pendant la saison.
Bon. Mais c'est vrai, c'est un nouveau record. 6, on continue. Alors, c'est plus le record pour les équipes, hein, puisque ça en fait 2 pour Red Bull. Mais en effet, ça fait 6 vainqueurs différents en 6 courses. Voilà, t'es content?
Parfait.
Ça mérite d'être dit.
Passons donc au fait marquant. Donc, on vous rappelle hein, le sondage d'il y a 2 semaines. Donc, quel était le fait marquant du Grand Prix d'Espagne? Vous avez été 165 à voter. Alors là, un gros merci.
Gracias.
Est arrivé 3e. La chance gâchée de Hamilton, 9,7%. Je crois que c'était moi, mais je suis pas sûr.
On verra sur le reste.
En 2e place, le retour en grâce de Williams. 33,33%.
Ça, c'est moi. J'ai mal formulé.
Et en premier, le bon week-end d'Alonso, 56,97.
Donc, c'est toi, c'est Chez lui qui commence.
Oh, je veux dire, le meilleur tour de Schumacher, quand même, en qualif. Ouais. Décision en qualif.
Allez, Alexandre, je te passe mon tour.
Oh, c'est trop sympathique.
Ça, j'ai ri de la dernière place. La place pourrie.
Bon, moi, je vais pas prendre un truc qui va sûrement faire un gros score, mais j'ai envie de faire un petit clin d'œil à notre cher Félicité, avec Massa de retour aux affaires.
Ah, ça, c'est chance.
Mmh, ouais. Et toi, Dino?
Je cherche un peu sur Grosjean.
Il y a des choses.
Mais voilà, je voudrais marquer Grosjean. Grosjean,
une chance sur deux que Grosjean se rate au départ.
Monsieur 50% accident. Voilà.
L'homme qui ne finissait jamais.
Quoique, assez étonnamment, j'ai regardé la statistique aujourd'hui, c'est seulement la deuxième fois qu'il abandonne dans le premier tour.
Bah, oui, parce que après c'était au deuxième, troisième tour.
deux sur six, c'est quand même.
Non, parce que la première fois qu'il avait abandonné dans le premier tour, c'était en Belgique en 2009. Un magnifique strike avec Hamilton.
Oui, oui.
C'est pour ça,
en plus. Il faut qu'il fasse gaffe, parce qu'il avait déjà eu une sale réputation avec ça en 2009. Qu'il fasse gaffe. Donc, quel est selon vous le fait marquant du Grand Prix de Monaco 2012? Nous vous proposons le meilleur tour en qualif de Schumacher, Massa de retour aux affaires, ou bien Grosjean, monsieur 50% accident. Pour voter, il suffit de se rendre sur le site fan-fin.com, hein, sur l'article consacré au SAV de la F1, sur l'émission consacrée au Grand Prix de Monaco. J'ai bien tout dit, Dino?
Je sais pas, j'ai pas écouté.
Vas-y, tu m'écoutes jamais, donc.
Merci, Alexandre.
Tu vas bien devoir m'écouter, puisque c'est à toi, Dino.
Voilà,
parce que c'est le concours.
C'est surtout le moment où je m'écoute, moi, en fait.
Oui, surtout.
Tu sais que j'adore ça, en plus, Edgy.
Oh, oui.
Attention.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours Top Position. Franchement, si vous avez compris les règles, vous êtes déjà un champion.
Alors, le concours Top Position, la question nous était posée il y a 15 jours par Germain, qui nous posait la question suivante. Quel est le dernier pilote de Formule 1 à avoir fait un plongeon avec sa voiture dans le port de Monaco et lors de quelle édition? Et la réponse est, Alexandre, Shinji, si vous l'avez.
Alors, je me rappelle, je t'avais fait la remarque, oh, c'est facile, et tu m'as dit, non, ce n'est pas si facile que ça.
Alors, en fait, ils ne sont que deux. Le premier, c'est Ascari.
C'est le super connu, voilà.
Voilà, le super connu, resté tristement célèbre parce qu'il s'est tué une semaine après à Monza. Donc ça, c'est en 55.
Oui.
Et le deuxième et le dernier, c'est 10 ans plus tard, en 65. Alexandre, t'as une idée?
Attention. Non, je l'ai pas.
C'est pas un pilote de F1 du tout connu. Hein. C'est Paul Hawkins.
Ah oui, effectivement.
Qui est pas du tout connu.
Ah oui.
Paul Hawkins.
Donc Paul Hawkins, hein, qui d'ailleurs n'a fait que 3 Grands Prix, qui a commencé en 1965 lors du Grand Prix d'Afrique du Sud. C'était le jour du Nouvel An.
Oui.
Voilà, il était au volant d'une Formule 2, d'une Brabham Formule 2. Ensuite, il y a eu une pause de 5 mois au championnat du monde avant d'arriver à Monaco, où il a donc plongé sa Lotus dans le port, dans la chicane, dans le port. Il a fini dans le port.
Ah oui.
Mais il a malgré tout terminé 10e de la course. C'est puisque ça s'est passé en fin de course et donc il a été classé dans la course, donc il est 10e dans cette course.
Okay.
Et donc il est plus revenu en F1 après, il est revenu quelques je crois que c'est l'année d'après en fait pour faire une course, mais ça a été tout.
Bah, il est décédé dans un accident après, il me semble.
Oui, il est décédé à Outland Park.
Peut-être.
Dans un accident à bord d'une Lola qui s'est écrasée dans un arbre.
Ah, oh. C'est moche.
Durant une course de Tourist Trophy, il avait 31 ans. Et c'était un Australien, faut le préciser.
Alors dis-nous, avons-nous eu des réponses? Avons-nous eu des bonnes réponses?
Nous avons eu 3 réponses, dont une mauvaise, puisque le piège Ascari était trop beau. Donc, je tairai le nom du mauvais, mais nous avons une pensée pour lui. Donc alors, mais messieurs, je suis trop habitué, j'ai dit.
T'as vu, tu sais que toute la soirée, j'ai fait super gaffe à ne pas dire messieurs, des choses comme ça.
Non mais c'est terrible, les automatismes qu'on a. Faut dire, attends, ça fait combien de SAV de Grand Prix qu'on fait?
Oui.
Ça fait pas loin de 60. Juste sur les Grands Prix. C'est seulement le deuxième avec une fille. On n'est pas habitué, donc excuse-nous, Alexandre. Ça va. Donc, mademoiselle, monsieur. Alors Alexandre, tu n'as pas participé, tu peux en témoigner.
Je témoigne de ma non-participation. Je devrais faire.
Tu auras le droit d'aider dans la décision et dans le choix de la question.
Quel contraire.
Alors, je vous propose 2 questions. Vous me direz à la fin laquelle vous retenez, qui désignera donc le vainqueur du concours Top Opposition. Première question. La voiture de sécurité fit sa première apparition en Formule 1 lors d'un Grand Prix du Canada. Mais de quelle voiture s'agissait-il et qui était à son volant? Un indice, c'est le Grand Prix du Canada 1973. On va être un indice, pour être gentil. Et enfin, deuxième question. Sur quel circuit se sont déroulés les Grands Prix de Formule 1 au Canada? Donc le nombre et le nom des circuits, s'il vous plaît. Alors.
Moi, je dirais la safety car, mais bon. Les circuits, ça reste assez intéressant, mais les deux...
La safety car, moi aussi, j'aime bien.
Donc, on part pour la safety car.
L'histoire de cette chère safety car.
Donc, on va féliciter Steve. Et sinon, on va quand même saluer Clément pour sa participation. Enfin, pour sa question sur les Grands Prix du Canada. Est-ce que vous, comme ça, vous les connaissez peut-être, les 3 circuits? Allez, je vais vous aider, il y a 3 circuits.
Donc, il y a le circuit Gilles Villeneuve, il y a... que j'écorche.
De 78 à aujourd'hui, sauf en 2009.
C'est Mosport Park, si je...
Oui, en 67.
Je n'écorche pas le nom, c'est bien ça?
12, d'accord. 73, 74, 76 et 77, Mosport Park.
Mm-hmm. Y a pas un Tremblay, un truc comme ça?
Le Mont Tremblant.
Ah, là, là.
En 68 et 70.
Donc, ça a toujours, Mosport Park, c'était aussi au Québec?
J'en sais rien.
Non, parce que c'est intéressant de voir si, je vais regarder.
Vas-y, Fiji, regarde, vas-y.
Savoir, allez. Tu vois, si, est-ce que le Grand Prix du Canada, a toujours lieu au Québec? C'est pour faire plaisir.
Mosport Park, il est en Ontario.
C'est en Ontario.
Ah. Et l'Ontario, c'est?
Bah, l'Ontario.
Voilà.
Ah, c'est pas le Québec. Voilà. Donc, c'est pas une sous-province. Voilà.
Alors j'essaie de faire un truc sympa en me disant ouais tiens on va s'intéresser pour nos amis québécois et toi tu dis une connerie. Hein, l'Ontario est une sous-province là il y a des Canadiens ils viennent de s'étrangler là.
Non mais j'en sais rien, moi je suis pas spécialiste en Québec ou au Canada. Moi je regarde juste des courses au Canada. Et d'ailleurs on signale qu'on n'a jamais eu d'invité canadien, donc enfin québécois, les meilleurs, hein les mecs, ou mesdames aussi. Et donc voilà, n'hésitez pas, on s'arrangera pour le décalage horaire si vous êtes canadien et vous voulez participer.
Je précise.
De quoi?
Le Mont-Tremblant, c'est au Québec.
Tout est au Québec un peu.
Ah oui, d'accord.
Voilà.
C'est pas en Ontario, t'es sûr?
Non, l'Ontario est une sous-province du Québec. Tu te rends compte qu'il y a Toronto en Ontario? C'est pas un sous-truc.
Ah mais voilà, c'est pas un sous-truc. Voilà, mais Toronto, j'aurais compris. Tu me dis pas les choses essentielles.
Excusez-nous, amis du Québec.
Est-ce que les Québécois connaissent le Limousin? Non, bah alors.
Tu serais peut-être surpris.
C'est une référence, le Limousin.
C'est vrai. Non mais c'est bon, les Québécois, de toute façon, on est normands, on est à peu près de la même origine et tout. Un coup de Québécois.
Ah oui, c'est vrai.
Donc voilà, un gros big up à nos amis québécois.
Je tiens à préciser que cette phrase signifie que peut-être certains de nos amis québécois qui nous écoutent sont de lointains cousins de Dino.
Tout ce que ça implique.
Alors, ça peut aussi être de lointains cousins de moi, hein, vous n'appréciez pas forcément plus, mais je précise quand même qu'il y en a certains qui sont peut-être des cousins éloignés de Dino.
Bon, ça... Momo!
On est tous cousins, si on voit tous très loin.
Non, Donc voilà, donc je rappelle la question, hein. Il s'agit de nous dire, la voiture sécurité fit sa première apparition en Formule 1 lors d'un Grand Prix du Canada, on voulait un indice, 1973, mais de quelle voiture s'agissait-il et qui était à son volant? Pour répondre, c'est concours@savf1.fr. Vous nous posez une question sur le Grand Prix
d'Europe, qui aura lieu à Valence.
Qui aura lieu à Valence, ah. Voilà. Ou sur une question aussi sur les trucs moches.
Voilà, c'est vrai, de temps en temps, voilà, l'Europe, alors vous avez c'est bien, vous avez trois thèmes cette semaine. L'Europe, Valence. Les trucs moches.
Je boycotte le dernier thème.
Pourquoi?
Parce que Timo Glock a le retour le record du tour.
Bah, raison de plus.
Bon, je vais prendre une décision.
Je crains le pire.
Passons donc au prochain Grand Prix. Donc, qui sera donc le Grand Prix du Canada? Pour tout, parce qu'on a beaucoup parlé de nos amis québécois, parlons à nos amis français qui sont quand même les plus nombreux à nous écouter.
On s'en fout, je suis des Français. Hein, les meilleurs, c'est les Québécois.
Hein. Rappelons donc que ça sera le 10 juin, donc le même jour que le premier tour des élections législatives.
Oui.
La course, alors ça a été confirmé pour ceux qui l'ont suivi à dimanche F1, ils l'ont entendu pour ceux qui n'auraient pas pu suivre l'émission. La course sera en direct sur Eurosport. Apparemment, ils ont même prévu de prendre l'antenne une heure avant sur Eurosport. Donc, si vous êtes fan de Franck Lagorce, ça va être votre fête. Et par contre, ils ont annoncé que la course serait diffusée sur TF1 en différé en seconde partie de soirée. Ils n'ont pas donné d'heure, hein, faut bien le dire. Sachant
que, ça dépendra des résultats.
Sachant que voilà, c'est une soirée électorale. Donc,
c'est le premier tour en plus, donc... Alors, notons quand même que sur Fan F1, hein, quand c'est pas diffusé par TF1 en direct, on assure un live. Donc, du coup, il y aura non seulement un live pour les qualifs le samedi soir, mais en plus un live pour la course le dimanche soir, animé par une partie de la rédaction. Voilà. Je sais pas trop comment on va s'organiser. On verra bien. En espérant que ce soit pas le bordel comme l'an dernier. Ça sera bien.
Tant qu'il pleut pas.
Voilà.
Et donc, vu que ça sera quand même un petit peu compliqué, peut-être que vous allez choisir de faire autre chose le 10 juin.
Ça sera bête.
Voilà. Et pour cela, eh bien, vous avez de la chance. Alexandre va vous donner 7 conseils.
Mais bon, faut pour ne pas regarder le Grand Prix, faut ne pas aimer la F1.
Oui.
Voilà.
Mais il faut être suffisamment tordu pour écouter jusqu'à la fin un podcast sur la F1.
Tout à fait. Donc, je me suis dit qu'en soirée électorale, ceux qui n'ont pas grand-chose à faire dans la F1, c'est très logique, pourraient tout à fait regarder... La soirée électorale sur TF1 ou sur France, au choix. Et tant qu'à faire, parier sur les résultats, toujours un peu rigolé. Mais bon, c'est une question de politique.
Tout à fait logique.
Donc, ce dimanche soir, c'est triste, c'est la fin de la semaine, la fin du week-end. Donc, se préparer mentalement et tant qu'à faire matériellement à la reprise du boulot le lendemain, ça peut être une bonne chose. Enfin, bon. Après,
matériellement, qu'entends-tu par se préparer à la reprise du boulot matériellement?
Bah, préparer ses affaires, dans mon cas, faire mon sac.
Bah oui.
Oui.
Ah oui, non, je suis pas d'accord.
S'il vous plaît.
Je suis pas d'accord, je te dis, parce que une femme ne peut pas préparer son sac le dimanche soir. Elle commence minimum le vendredi soir pour que ce soit prêt le lundi matin. Je ne connais strictement aucune femme qui arrive à faire son sac à main en moins d'une soirée.
J'ai fait ma valise en 2 jours et je suis parti 6 semaines.
T'as fait ta valise en 2 jours?
2 jours.
C'est long.
2 soirées, 2 fois 30 minutes.
2 fois 30 minutes? Mais c'est trop long.
Oh, ça va. En même temps, nous les femmes, on emmène toutes nos garde-robes, alors...
C'est vrai.
Alors que nous, un pantalon, 2 slips, le baladeur MP3, puis c'est bon.
2 slips?
Ouais, je sais.
Donc, bon, dans la même vanne, prendre un petit apéro pour finir la semaine sur une bonne note, c'est toujours plaisant. Je sais pas si... Puis c'est le soir, donc bon, pour en profiter. Mais bon, je vous conseille de ne pas abuser. Un petit coca, c'est toujours pas mal. Non, bref. Bon, c'est un petit peu une petite touche féminine. Décidez de comment vous vous habillerez demain, parce que faut commencer la semaine bien fringuée, hein, quand même. Histoire de ne pas montrer que vous avez fait la fête tout le week-end ou que vous n'avez pas le moral. Donc bon, voilà, préparer ses habits, ça peut toujours être quelque chose.
Et t'as remarqué, je dis, les femmes, elles décident le dimanche soir ce qu'elles vont mettre le lundi matin, et après le lundi matin, elles débattent pendant 2 heures avec elles-mêmes pour savoir est-ce que je garde en fait. Est-ce que je mettrais pas, je ferais pas mieux de mettre autre chose, tu vois.
Pour le que je peux pas nier, c'est un fait. pour ceux qui ont la mauvaise habitude de ne pas entendre le réveil le lundi matin, préparez la table du petit-déj, Parce que bon, quand on se réveille 5 minutes avant le départ du bus, des fois on n'a même pas le temps de prendre le petit déj, donc autant s'assurer que
Sous pas
tout est
prendre
prêt à
de
partir en dernière minute. Au pire, une autre solution, aller au lit avec un bon bouquin, voilà. Comme ça, il n'y a pas de politique, pas de Formule 1, tranquille. Dans son petit monde, c'est aussi une solution.
Quelle option, ouais.
Et bon, la 7e raison qui n'en est pas une, parce que bon, le manque d'inspiration commence à se faire sentir. Vous remettre sérieusement en question, parce que ce n'est pas normal de ne pas aimer la F1.
Ça, moi,
C'est vrai.
je trouve que c'est un super truc à faire.
Bon, ne pas aller jusqu'à essayer de chercher un psy, parce qu'un dimanche soir, c'est pas forcément le bon moment. Mais voilà, ce petit moment de méditation sur pourquoi vous n'aimez pas ce sport, c'est voilà. C'est ce sur quoi je finirai mes conseils pour les gens qui n'aimeraient pas les choses.
Bah c'est cette bonne
C'est
chose
cette
à
bonne
faire, moi
raison.
j'avoue.
Posant de la graine, les gars. Ah, parce que on se
Ouais,
rend compte
voilà.
quand même que parfois il y a des trucs qui se répètent, hein. Même si on les
Voilà.
liste pas tous.
Bon,
Hein.
enfin là, j'avais l'horaire décalé, j'avais matière à faire.
C'est vrai.
Moi, j'ai plus.
Oui, puis t'as, tu sais pas, t'as un petit truc en plus qui fait qu'on a envie d'être clément. Voilà, c'est bizarre. Nous, avec les filles, on est toujours clément. C'est voilà, on est comme ça.
Mais non, je ne veux pas avoir un traitement de faveur.
Mais non, mais ils étaient très bien quand même.
Oui.
Ouais.
Mais ils sont encore meilleurs parce que t'es une fille. On est comme ça, nous.
Je me défie un gars de reprendre les mêmes idées, voire le jugement de Dino et Shinji.
Sinon, vos pronos pour ce Grand Prix du Canada? Enfin, théorique, enfin, on les connaît peut-être déjà, Dino, non?
Bernd Mailander, parce que bon, s'il a plus de la partie, il pourra sûrement mener la course, mais très longtemps. Mais ils ont décalé l'horaire, si je ne m'abuse pas.
Je ne sais pas.
Il me semble que c'était à 7h l'année de la
Et là, c'est quelle heure?
20h.
C'est 20h. Ah, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas encore passé à l'heure d'été ou que nous on n'est pas encore passé.
Peut-être. C'est.
Je pense.
Voilà.
Toi, tu restes sur Bernd Mailander. T'es sûr?
Une deuxième fois. On a vu ce que ça donnait l'année dernière avec la pluie. Ça a fait un grand prix particulièrement passionnant. Bon, même si on aurait pu se passer des 2 heures d'attente. Oui, et puis même s'il n'y a pas de pluie, c'est une piste en général très abrasive. Donc avec les Pirelli, on va sûrement voir un festival de stratégie. Donc ça sera sûrement une course intéressante. Mais pour ce qui est du vainqueur et tout, bon, vu qu'on a une saison de malade, faut pas trop s'avancer. Mais bon, allez, Alonso.
Ah.
Je ne dis pas ça parce que c'est toi. Non, pas du tout.
Non, mais voilà, c'est Alonso, c'est tout. Voilà, Toi, je t'ai dit.
Hamilton, voilà, c'est une piste rapide. Pour peu qu'il pleuve pas, voilà. Mais je pense pas qu'il pleuvra comme l'an dernier quand même. Donc, ouais, Hamilton. Et toi, Dino?
Bah moi, ceux qui ont suivi ma brillante intervention à la radio canadienne savent très bien que je vais donner 15 favoris dans la prochaine phrase. Donc je dirais, non moi, allez, soyons faux, Michael Schumacher, soyons faux, au moins pour la pole et une pole qui comptera pour le coup.
Eh bien, on arrive à la fin de l'émission.
Oui.
Ouh.
Y a encore quelqu'un?
À noter, donc c'est bon, on a donné toutes les adresses. Si vous souhaitez nous poser des
Bah,
questions
le
pour le
répondeur.
répondeur, hein, c'est répondeur@savf1.fr. On vous rappelle, hein, que vous nous retrouvez sur iTunes, bien évidemment. Si vous pouvez nous mettre 5 étoiles, ça fait toujours plaisir.
Oui, voilà, parce qu'on est un peu le Ritz des podcasts. Je me demande si j'ai pas déjà fait celle-là. Mais c'est pas grave.
C'est possible. Alex, merci.
Ouais,
C'était
de
un grand
rien.
plaisir.
Bah, écoute.
Oui, c'est toujours un grand plaisir. D'ailleurs, on relance vraiment l'idée, hein, c'est-à-dire que là, ça y est, on a Maël et Alexane qui sont venus. Pour nous, maintenant, c'est bon, elles font partie de la maison, hein. On relance vraiment l'idée un jour de faire un SAV avec des filles. Voilà. Donc voilà, on est prêt à accueillir d'autres demoiselles. Vous avez vu, on est gentil, Alexane, on est gentil.
Oui.
Voilà, on est bien intentionné, on est sage et tout, donc voilà. N'hésitez pas à venir.
C'est l'occasion à pas manquer.
Puis merci à toi d'être venu.
Bon, écoutez, pareil, j'en avais l'occasion et bah, c'était super, hein. Merci beaucoup de votre accueil.
Surtout, n'oubliez pas, l'AF1 sur Internet, c'est sûr.
Faire des
F1.
fins.
Ouais. Et comme
Ouais.
d'habitude, on va s'y quitter sur ces quelques mots de poésie. Et je crois que cette semaine, il les a préparés, donc c'est bien.
Oui, cette semaine,
Merci
j'ai
beaucoup.
pas envie de dire, je me suis dit, tu sais que, je me suis dit, ah, sur qui je vais faire un proverbe? Bon. C'était devenu évident sur Schumacher. Mais tu sais, je dis que moi, quand il s'agit de Schumacher, je suis incapable de juste me contenter d'énoncer comme ça, de façon relativement plate, un proverbe. J'ai toujours ce petit côté, comment dire, ce petit côté chantant, ce petit côté... voilà, j'ai toujours envie de chanter un petit peu. Et donc, ce soir, je vais juste vous faire quelques petites notes d'une chanson bien connue, qui est la suivante. Dans la jungle, terrible jungle, le baron rugit encore.